Bon, on va peut-être commencer du coup, parce que là, je ne sais pas pour dire, mais. Attends, je vais remettre ça
Ah!
là. Bah, attends! Mais j'ai pas dit.
J'y réponds aux gens dans le chat.
J'ai pas dit encore. Nous sommes mercredi 10 avril 2019 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Oui, on va faire une petite rétrospective Wolfenstein, du coup tout le monde se met un petit peu dans l'ambiance, on ressort les casques à pointe, les petites moustaches,
bon,
les petits claquements de bottes.
Nintendo Europe, c'est en Allemagne, donc ça passe. Hein.
Ouais, c'est... Oh là là.
Alors moi, je me suis fait un petit thé allemand.
C'est-à-dire ?
Il a un accent.
Il a un accent, ya yeah.
Il a une moustache.
Il a un petit goût de saucisse fumée.
Très bien.
Oh putain.
Non, il y a plein de choses qui seront coupées au montage. Peut-être. Peut-être pas, d'ailleurs.
Le prépuce.
Alors, autant il y a plein de gens qui vont passer modéro, mais ton, tu vas passer muet pendant 5 minutes. Parce que c'est pas possible. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Nous attendons un invité surprise qui arrivera un tout petit peu plus tard. Et que vous connaissez bien, en fait, il est pas tellement surprise. Et donc, ce soir, on va parler de Wolfenstein, on va parler de Baba Is You, on va parler de Red Strings, on va parler du mode facile dans Dark Souls Sekiro Edition. Dark Souls Japan Edition, pardon, excusez-moi, à chaque fois je confonds. Après, Dark Souls au pays des cauchemars, Dark Souls au pays du Japon. Alors, étonnamment, il n'y a pas de distributeur de petites culottes dans Sekiro, je suis un peu déçu.
Ah, parce que, en fait, dans le Japon médiéval, il n'y avait pas de culottes.
Ah, mais c'est peut-être pour ça, alors. Mais on va commencer tout de suite avec la VR de Nintendo, qui a été un petit peu le truc qui a allumé tout le monde il y a quelques semaines.
On va pouvoir mettre la tête dans le cul du canard.
Voilà. C'est le fameux « on va mettre la tête dans le cul du canard », ce qui est quand même extrêmement intéressant. Et je rappelle que le caca des canards, c'est caca. Et en fait, voilà, Nintendo VR, c'est bien Nintendo qui fait de la VR à environ 10 fois moins cher que Sony, que ce soit en recherche et développement ou en produit final pour le client. Voilà, 400 €, hein, je rappelle, alors que pour 40 € vous pouvez avoir le kit Nintendo Labo VR. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que ce kit VR qui devait à l'origine être réservé juste, enfin qu'on pensait à l'origine juste réservé pour Nintendo Labo, et ben non, en fait, il va y avoir un petit mode de jeu dans Mario Odyssey qui va s'en servir. Alors c'est un truc assez limité, apparemment ce serait juste des quelques mini-jeux, en tout cas de ce qu'on a vu, avec une caméra fixe.
Yeah.
Et oui, Paul, tu vas passer modéro. Paul qui me dit hâte de voir la cinématique avec le gros cul de Zelda en VR, je suis d'accord.
Ah bah génial, la mentalité.
Bah, on a dit misogyne nazi aujourd'hui, donc c'est bon, on a le droit. Bref, et donc il va y avoir effectivement l'intégralité de Breath of the Wild qui va être jouable en VR.
Alors, ça resterait à la troisième personne.
Ça va être compliqué.
Et du coup, ce serait juste un contrôle de la caméra...
Avec la tête.
Avec la tête.
Alors moi, du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière dans une autre, un autre industrie du divertissement qui s'appelle le cinéma, qui a une époque, son époque 3D, où du coup, on mettait de la 3D à des films qui n'en avaient pas l'origine, genre Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme.
3D.
3D. Heureusement qu'il n'a pas fait les autres et qu'il a revendu Star Wars à Disney juste après. Du coup, ben, moi, d'un point de vue personnel, je ne comprends pas l'intérêt de jouer à Zelda en VR. Déjà que le jeu n'est pas exceptionnellement optimisé pour la Switch. Il y a quand même quelques belles chutes de framerate dans certaines zones, en tout cas à l'époque de sa sortie, peut-être pour maintenant. Est-ce qu'en VR, ça ne va pas juste être pire, hein, et on va avoir le droit à un diaporama en VR?
Je sais pas. Tu vois, comme de toute manière, tu ne pourras pas... Alors à moins que t'aies un élastique magique en DLC, hein, ouais en DLC l'élastique.
Pour 15
gigas. À moins
que t'aies
un élastique magique, faudra jongler entre le casque sur ta gueule et la manette. Donc si ça rame, je pense que t'auras pas le temps de le voir.
Non, mais justement la manette, tu vas la tenir parce que c'est la Switch avec les Joy-Con sur le côté. Enfin, t'es en mode
oui,
docker.
C'est vrai, t'es censé. En fait, le canard ne
oh,
te colle pas. T'avais pas tilté.
Oh mais non.
En fait,
ah mais attends, mais tu joues avec
en fait,
tes mains sur les oreilles, quoi.
Tu mets ta gueule dans la console, en fait.
Ouais, ne joue pas trop près de l'écran, et 20
voilà.
ans après...
C'est okay. ça. Bah, en fait, techniquement, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup ressembler à... Ça va ressembler à rien, d'abord.
Oui, disons-le tout de suite.
Faut quand même être honnête, ça va ressembler à pas grand-chose. Mais finalement, même sans le kit VR, si tu louches un peu fort très près de ton écran, ça fera pareil. Hein. Je suis désolé. Ça me fait rire. Moi, ce que je trouve un peu flippant, c'est qu'avec la résolution de la Switch, c'est-à-dire 720p, tu vas avoir 360p sur chaque œil, c'est-à-dire ça va être quand même franchement floutasse. Sauf si les modes de jeu sont bien adaptés à ça, et sur Mario Odyssey comme sur Breath of the Wild, je pense que ça va quand même être un petit peu compliqué.
Bah, Mario Odyssey, c'est des trucs spécifiques, donc peut-être que ça va être adapté, mais comme Zelda, on t'a mis l'aventure dedans en mode gros bourrin.
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas Captain Toad, tu vois, en VR. C'est... Je pense que ce serait plus adapté en l'occurrence.
Bien, ouais.
C'est vrai. C'est ce genre de truc, c'est un peu dommage.
Moi, j'attends toujours Xenoblade VR Experience où tu contrôles directement le scale. Hein.
tu sautes
toute la partie chiante à pied et tu vas directement au bon robot.
Ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera jamais, mais c'est mon plus grand fantasme.
Moi, je veux le Dead or Alive.
Ah oui, on nous dit un point commun avec les autres kits VR, t'auras aussi l'air con en jouant. C'est-à-dire t'auras autant l'air con qu'avec un PSVR, sauf que ça t'aura quand même coûté 10 fois moins cher. Je maintiens, il y a quand même un argument.
La question, c'est est-ce qu'on peut jouer avec les Wiimote aussi, parce que à ce stade, hein, autant jusqu'au bout.
Ah oui, motion control. Ah oui, mais comment tu vas faire pour lancer ton chapeau avec Mario si t'as la gueule collée dans le cul du canard?
Eh bah, tu secoueras la Switch avec ta tête.
Comme ça, en plus d'avoir la gerbe, parce que la résolution est trop faible et que tu bouges la tête et que du coup c'est germant, bah t'auras la gerbe en plus avec... Oh putain.
Putain, mais c'est peut-être pour ça que c'est un petit mode à part, juste parce qu'il peut pas lancer son chapeau.
Tout pensé, Nintendo.
Non mais, je pense que c'est vraiment histoire de dire, un peu comme les kits Nintendo Labo, tu sais, que tu pouvais utiliser pour jouer à Mario Kart. C'est quand même, à mon avis, plus histoire de dire, bah regardez, ça sert pas que à Nintendo Labo, on peut faire autre chose avec, mais c'est beaucoup plus de la preuve de concept que du véritable, du bonus, quoi. C'est faut vraiment le voir comme un mode bonus, je pense pas plus que ça, surtout que ça m'étonnerait que Mario Odyssey, ça dure plus de 10 minutes, un quart d'heure.
Non, mais c'est clairement pour pouvoir augmenter les ventes du Nintendo Labo, parce que Zelda en VR, je suis sûr qu'il y a des gens qui voudront y jouer, tu vois.
Écoute, je te propose un défi intéressant, je vais refaire tout Breath of the Wild en VR.
Oh putain. Oh là là.
Deux jours reportage de l'extrême.
J'attends le fait divers, ce père de famille devient complètement baboule et se prend pour le héros du temps après avoir joué en VR à Breath of the Wild pendant 100 heures.
Je te promets, je le fais et j'essaie de pas vomir. Alors, ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas le faire en direct puisque forcément j'aurais la console sur la gueule. Mais je serais quand même extrêmement tenté.
Oh, demande à ton opticien de te filmer. Il aura besoin. T'en auras besoin après, de toute façon.
Ah, j'en ai déjà besoin, donc ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous pensez que Nintendo va rajouter d'autres modes VR sur d'autres jeux, ou est-ce que ça reste juste le petit bonus pour les deux jeux les plus vendus de la Switch, et puis c'est tout? Je sais pas, est-ce que vous imaginez, par exemple, un Splatoon 2 en VR, dans le genre gerbant, ça va aussi se poser là?
Mario Kart VR.
Mario Kart 8 VR, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à faire, moi, personnellement.
Sachant qu'il y a déjà des expériences VR Mario Kart au Japon. Hein.
D'accord, donc ça je ne savais pas. Et on disait Captain Toad, c'est vrai que je pense que ce serait plutôt bien adapté, moi, avec cette histoire de caméra, de tu regardes autour d'un truc, ce serait quand même rigolo, je trouve, de pouvoir vraiment regarder le diaporama de Captain Toad complètement en 3D. Il y aurait quelque chose à faire. Est-ce que vous avez d'autres trucs, bah, Dark Souls VR?
Pour te voir mourir en réalité augmentée.
Non, pour voir le super chevalier niveau 38 se casser la gueule lamentablement dans un trou sans fond alors que t'as strictement rien fait à part te sauver parce que t'avais la trouille de te faire défoncer.
Ou alors mieux du lore en VR.
Ah oui, les chaussons sacrificiels de Lothar Ier. Bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'est quand même juste effectivement un petit bonus comme exactement la moto court, voilà, la moto de Nintendo Labo, du premier kit, qui était jouable dans Mario Kart.
La subtilité, c'est que ça a été annoncé avant et pas une mise à jour qui s'est faite après la sortie du kit.
Tout à fait. Ce qui est un petit peu nouveau. Mais d'une certaine manière, si c'est pour essayer de booster un peu les ventes du kit, c'est peut-être pas idiot non plus. Ce que tu disais tout à l'heure.
Je pense que c'est pour ça. Enfin, d'un point de vue ludique, je comprends pas l'intérêt de rajouter Breath of the Wild alors que finalement le kit VR a l'air plus intéressant de ce côté-là.
Ok. Bah écoute. On va bien voir de toute façon ce que ça va donner. Le deuxième petit sujet avant de faire la première pause musicale, c'est le mode assistance pour Dark Souls Japan Edition. Alors, on n'a pas parlé de Sekiro, qui est le dernier From Software, mais qui en fait est Dark Souls, mais au pays des ninjas.
Édité par Activision.
Et d'habitude, c'est pas le cas?
D'habitude, c'est édité par Namco Bandai.
Ouh!
Bandai Namco, pardon, on peut dire dans ce sens-là maintenant.
C'est marrant, je m'en bats encore plus les couilles d'un coup de ce jeu, quoi.
Ah, parce que c'est Activision?
Ouais.
Ouais.
Bref, c'est pas tellement du jeu qu'on voulait parler, mais du fait que le créateur de Céleste, dont le nom m'échappe systématiquement,
Matt Thompson.
Merci beaucoup, Matt Thompson a dit que ce serait peut-être bien d'avoir un mode plus accessible pour Sekiro, parce que le jeu a quand même l'air d'être... Bah, comme finalement tous les... voilà, comme tous les Souls, il a l'air quand même méchamment dur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Dark Souls... Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, slash Sekiro... qui soit très accessible. Celui-là a quand même l'air d'avoir une narration un peu moins hachée, et a l'air d'être un peu plus sur des rails, puisque tu n'as pas de création de personnage, enfin, il y a tout un tas de trucs qu'il n'y a pas. Le jeu a quand même l'air d'être un peu plus souple dans ses contrôles et tout ça.
Si j'ai bien compris, il y a une vraie quête où tu joues à une espèce de ninja samouraï qui doit sauver une gamine. Du peu que j'ai vu les cinématiques.
Une malédiction, machin,
ouais. Enfin, il y a des trucs. Et surtout, la particularité de celui-là, et c'est le sous-titre du jeu en Occident, c'est que tu peux mourir. En fait, quand tu meurs, tu as une résurrection.
Oui, c'est ça. Ce qui rend peut-être le jeu plus accessible, hein. Je suis pas certain, j'y ai pas joué.
Apparemment, ils en ont profité pour augmenter la difficulté, ces petits bâtards.
Voilà, mais du coup, Matt Thompson disait, c'est complètement con, il devrait y avoir un mode facile ou un mode plus accessible, c'est-à-dire un truc qui te permette de profiter du jeu sans te faire fesser avec une pelle. Parce que finalement, il y a des gens qui recherchent effectivement la difficulté dans un jeu, il y a des gens qui recherchent le gameplay, il y a des gens qui recherchent le challenge. Et il y a des gens qui recherchent le chat qui va gerber, je ne sais pas pourquoi, et il y a des gens qui recherchent plus l'histoire. Et je trouve que un bon exemple là-dessus, je trouve, c'était Deus Ex, oui. Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided, dans lequel il y a trois modes de jeu dès le départ. Il y a I Want a Story, qui est vraiment le mode de jeu où le jeu n'est pas difficile, il est vraiment accessible, les checkpoints sont beaucoup moins éparpillés. On risque moins de se faire gauler par les ennemis, on peut vraiment jouer pratiquement détendu, mais on profite un peu de l'histoire et de l'univers et tout ça. Il y a le mode I Want a Challenge, je crois, qui est le mode normal en fait, où effectivement tu joues normalement au jeu, c'est-à-dire tu profites de l'histoire, mais le jeu, les mécaniques sont normales, t'as ta barre de vie normale et ainsi de suite. Et il y a le I Want Deus Ex, qui est vraiment le mode de jeu difficile, hardcore. Où limite là l'histoire tu t'en fous, t'es vraiment là pour te faire fesser avec une pelle. Et c'est vrai que Dark Souls, peut-être qu'il manque un niveau de difficulté, parce qu'il n'y a pas du tout de niveau de difficulté dans Dark Souls, c'est le même pour tous. Il n'y a pas de mode difficile, il n'y a pas de mode facile, il n'y a pas de mode normal.
Ce qu'on oublie en plus,
c'est peut-être un peu dommage.
Ce qu'on oublie souvent d'ailleurs avec Dark Souls, c'est que la difficulté, c'est pas tant les combats qui certes sont très punitifs, mais c'est aussi le fait de progresser dans le jeu, dans le sens où tu n'as que très peu d'indications sur la marche à suivre. C'est souvent des niveaux un peu limbiratiques, avec beaucoup de passages secrets. Ouais,
alors, pas si limbiratiques que ça, parce que finalement, ils ont tous une telle personnalité que je trouve que même sans carte, la carte mentale que tu te construis toi-même est quand même... Voilà, ça va.
Ça demande de prendre le temps de faire cette navigation et de savoir où aller, en fait.
Et ça demande aussi, surtout pour le 1 d'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre que dans les suivants c'était plus tout à fait le cas. Dans le 1 je l'ai pas fini, hein. C'est juste qu'effectivement t'as beaucoup d'allers-retours, t'as quand même beaucoup de backtracking, dont du backtracking un petit peu pénible, faut quand même le dire, avec des trucs dans lesquels tu dis ah ok, donc pour aller de là à là il va falloir que je me retape tout ça, et dedans il y a Bernard, Jean-Paul et Michel, et ça va être la boum du cimetière. C'est casse-couille. Voilà, il y a des moments où c'est vraiment casse-bure, et t'aimerais juste avoir un téléport d'un feu de camp à un autre. Et il me semble qu'à partir de Dark Souls 2, le téléport dans le feu de camp, tu l'as quasiment dès le départ.
Alors, même dans le premier, je crois que tu peux l'obtenir, mais plus loin dans le jeu.
Alors, tu l'as plus loin dans le jeu, ça c'est sûr, vers la fin, tu l'as. Mais justement, tu l'as peut-être un peu tard par rapport à. Par rapport à d'autres trucs. C'est un peu comme Metroid Prime, si aussi sur la fin, tu devrais, je pense, avoir un téléport, parce que c'est vrai que reparcourir le jeu, même si tu le connais très 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 bien, voilà. Et dans Metroid Prime, t'as une carte. Dans Dark Souls, il n'y a pas de carte et c'est fait exprès. Et autant quand t'es dedans, c'est pas forcément gênant. Enfin, c'est pas le point que j'ai trouvé le plus gênant dans Dark Souls. Moi, ce qui m'a cassé les couilles, c'est vraiment les contrôles. Enfin, l'histoire hyper cryptique et les contrôles. Ouais. C'est ça, c'est vraiment. C'est très pénible. Mais je trouve que finalement la carte, on s'en passe. Maintenant, un mode avec une carte ou avec des waypoints, c'est façon Assassin's Creed, pour dire faut aller là, la cible elle est à 350 mètres. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour des débutants, tu vois, quitte à ce que ce soit ta première partie de Dark Souls, que tu la fasses comme ça, et que comme ça, du coup, à la deuxième, tu te sens plus en confiance et t'as réussi à rentrer dans le jeu, dans l'univers, et que tu veuilles faire le vrai challenge, quoi.
Yes.
Et surtout, ce que proposait Matt Thompson, c'est que lui, il a repris ce qu'il a fait pour Céleste. Bon, je rappelle quand même Céleste, jeu de plateforme plutôt difficile. De ce côté-là, donc lui, il a pas grand-chose à prouver en termes de jeu difficile. Lui, il était allé jusqu'à dire, bon ben, on pourrait mettre un mode assist un peu comme dans le mien, avec les options suivantes, donc j'ai plus tout souvenir en tête, mais il y avait évidemment aller jusqu'à l'invincibilité, mais peut-être réduire les dégâts, ce qu'on a aussi un petit peu dans Wargroove par exemple, et qui n'était pas juste mettre un mode facile ou des cartes, mais pouvoir un petit peu adapter selon tes difficultés à finir le jeu. Parce que c'est, comme on l'a dit, il y a le côté navigation dans Dark Souls qui est aussi assez important, en tout cas dans les jeux de From Software. Et c'est vrai que la navigation difficile plus les combats difficiles, ça peut, pour les moins patients, être problématique, et ne serait-ce que déjà pouvoir simplifier la partie combat quand on voulait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est par là qu'ils voulaient aller. Ça permettait, pour ceux qui voulaient plus se concentrer sur l'exploration et découvrir l'univers, de rendre le jeu moins frustrant en fait.
Oui, c'est exactement le sens des propositions de Mark Brown qui disait pour rendre les jeux plus accessibles à certaines personnes. Alors il en avait parlé dans les jeux qui étaient les gens qui étaient qui ont un handicap cognitif, c'est-à-dire des difficultés à se concentrer, des difficultés à naviguer, des difficultés à se repérer dans l'espace ou des choses comme ça, c'est-à-dire des vrais handicaps au quotidien, mais dont tu ne te rends pas compte quand on n'est pas affecté. Il disait que ça peut être intéressant plutôt que d'avoir un niveau de difficulté facile, moyen, difficile, mais d'avoir effectivement d'un switch où tu dis je veux que les combats soient faciles. Je veux avoir une carte, je veux avoir un radar, je veux avoir ça, je veux que les ennemis me repèrent moins facilement. Parce que finalement, c'est vrai que sur ce genre de jeu-là, dans lequel il y a vraiment beaucoup d'aspects, il y a un aspect infiltration, il y a un aspect combat, il y a un aspect exploration, il y a un aspect narration. S'il y a un truc dans le lot qui te casse les burnes parce que la difficulté est mal calibrée pour toi, c'est-à-dire que tu as du mal avec les phases d'infiltration parce que t'y arrives pas, t'as pas la patience, tu comprends pas bien les mouvements, ou t'aimes pas, ça te permet aussi d'aller dire j'adapte le jeu finalement à mon besoin. Donc effectivement, ça trahit un peu la vision du créateur.
Je rebondirai là-dessus après.
Je t'y invite d'ailleurs, mais ça te permettrait de dire moi ce que j'aime bien c'est les combats, je les trouve intéressants, je les trouve tactiques, je les trouve machin, par contre la partie infiltration ça me casse les couilles, donc je préfère que les ennemis me voient jamais, ou d'être invisible tout le temps, et de pouvoir faire les combats comme je l'entends. Voilà.
Non, sachant que pour la partie infiltration de Dark Souls, comme de mémoire, c'est un jeu où t'as quand même pas mal d'orientation de tes compétences et compagnie. C'est un truc que tu peux choisir par toi-même de l'éviter sans passer par un menu d'options, mais y a l'idée qui est là, quoi, de simplifier la tâche. Et on parlait de vision d'auteur, justement. Oui. Alors moi, je vais faire une petite anecdote là-dessus.
Non, mais je pense qu'on va se compléter, vas-y.
On va parler d'un jeu que Mortal aime beaucoup qui s'appelle Fury. Et en fait, quand il est sorti Fury, il y avait un côté. Il y avait deux modes de difficulté, le mode normal et le mode facile.
Le mode promenade, s'il te plaît.
Promenade. Donc, tu sens déjà que les mecs. Tu vois, le choix du nom n'est pas aléatoire. Et il te précisait bien que, eux, c'est le mode normal dans lequel il fallait jouer. Mais surtout que si tu faisais le jeu en mode promenade, t'aurais pas le droit à la fin. Ce qui fait un petit côté élitiste, que notamment on a pu retrouver dans Cuphead. Qui a le même souci. Et en fait, ces mecs-là, donc, qui sont français, ont vu les vidéos de Mark Brand sur l'accessibilité, notamment celle où il parlait du mode assist de Céleste.
Yep.
Et ils l'ont clairement dit sur Twitter, d'ailleurs, que c'est ça qui les avait inspirés. Et du coup, ils ont bossé sur un mode Freedom, qui est sorti très récemment, et qui, du coup, permet de profiter de l'histoire et de l'univers du jeu sans avoir à... de tout le jeu normalement d'ailleurs, sans se prendre trop la tête avec les combats, qui sont quand même relativement difficiles.
D'accord, je savais pas. Alors j'ai vu qu'il y avait une mise à jour de Fury il y a pas longtemps, je n'ai pas encore revendu ma copie de Fury parce que j'aimerais bien lui donner une deuxième chance. J'ai eu beaucoup de mal avec le jeu parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des timings qui étaient off exprès et ça m'a cassé les burnes. Donc c'est vraiment le gameplay moi qui m'a gonflé, c'est pas tellement les difficultés. Parce qu'après, l'idée de mélanger hein, une espèce de jeu de combat 3D avec du shoot'em up, je trouve ça plutôt rigolo. On va quand même être un petit peu honnête, l'univers et l'histoire de Fury, c'est quand même léger. Hein.
Non, c'est pas top du tout. Moi, j'y suis venu pour les bastons.
Voilà, et moi, je trouve que les bastons, elles sont... Enfin, il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres où c'est juste agaçant, notamment... J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a deux bastons qui m'ont gonflé. Il y en a une où le timing des parades, j'arrivais absolument pas à le sortir. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une fois sur deux, le timing était pas le même. Et ça m'a vraiment sorti du truc complètement. C'est-à-dire que un coup, tu fais le timing, enfin, tu fais la parade au bout de 20 frames, ça marche. Un coup, si tu la fais au bout de 40 frames, ça marche, c'est chiant. Voilà, ça me gonfle, j'aime pas qu'on me mind trick avec des trucs hyper bêtes comme ça. Et il y a un deuxième combat où simplement les parades ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il faut esquiver, faut pas parader, je trouve ça con de pas avoir le choix. Voilà. Et les mecs disent s'inspirer des beat'em all de Capcom, enfin des beat'em all Platinum. Et franchement, ils leur arrivent pas à la cheville, je trouve, sur certains points, donc. C'est un peu dommage. Voilà. Mecton, je te prie de m'excuser, ouais,
pas de souci. Je reviens deux secondes. Donc là, l'idée de Matt Thompson, donc il prenait l'exemple de Sekiro, donc jeu ultra exigeant, et son idée d'étendre un peu sa vision du mode assisté à ce type de jeu. Pour les gens qui ont suivi, ça a déclenché une shitstorm assez incroyable sur Twitter. Donc notamment venant d'une fange élitiste de joueurs qui prenait pour argument le fait que ça ruinait, que rendre Sekiro ou les Dark Souls plus faciles ruinerait la vision de l'auteur. Donc sachant que dans cette vision, pour lui, la difficulté punitive fait partie de l'expérience, parce qu'à force de claquer, on en a le sentiment de réjouissance après avoir passé une difficulté est d'autant plus grand. Pourquoi pas, mais je sais que personnellement, la série des Dark Souls, je suis vacciné. Plus jamais je remettrai le nez dedans. Je ne pense pas être le seul. Donc après, à voir si pour ce genre de jeu, ils préfèrent limiter leur public ou l'étendre en proposant des possibilités d'assistance. Et donc j'ai revu avant l'émission la vidéo de Mark Brown. Je vous ai foutu le lien dans le chat, on la tweetera peut-être plus tard. Pour lui, donc la vision d'auteur est une chose, très bien, pas de souci, tu as le droit de faire un jeu ultra difficile et de le présenter comme étant l'intérêt principal de ta vidéo, de ton jeu. Et pour lui, la solution pour qu'un mode assistance soit accepté par le plus grand public, c'est tout simplement la communication. C'est-à-dire, du moment que tu actives une aide ou un mode facile, il te suffit d'un petit message en disant « Ok, t'as envie de profiter du jeu pour lequel t'as lâché 60 balles, on comprend. On te conseille simplement de le faire comme on l'a pensé, mais t'as activé le truc, amuse-toi bien. »
C'est un peu l'état d'esprit de Fury quand tu passes en mode promenade. Les mecs te disent « Bah, c'est pas comme ça que le jeu est prévu. Maintenant, tu peux le faire. Voilà, les trucs seront un peu moins difficiles, les timings seront un peu moins exigeants. Y a pas de problème, vas-y, fais-toi plaisir. » C'est exactement l'état d'esprit. Frosties nous a rejoint et nous allons en profiter pour faire une première pause musicale. Parce que, voilà.
Ah, moi, j'avais juste finir sur un petit truc.
Oh, alors finis sur un petit truc.
Parce que c'est aussi l'état d'esprit
qu'a adopté. Le titre de ta sextape, boum. Ouais.
C'est aussi l'état d'esprit qui, à mon avis, a poussé à l'arrivée du mode casual dans une série qui est chère à mon cœur, qui est Fire Emblem. Et pour avoir vu des gens dire ben ouais, non, mais moi, c'est cool le mode casual, comme ça, je peux profiter de l'histoire. Fire Emblem. Bon.
Voilà. Mais rien ne t'oblige à l'activer, quoi. Si tu veux faire le
problème du mode casual, c'est que tu dois faire le choix dès le début. Ça, c'est le seul souci à mon avis.
Moi, c'est le seul vrai problème que je vois à ça. Mais c'est pareil pour Fury. En fait, finalement, j'aurais bien aimé pouvoir activer le mode facile pour un boss qui me posait problème et qui était gonflant. Mm-hmm. Et je l'aurais bien réactivé en fait après le mode normal, simplement parce que voilà, il y en a un, j'arrivais vraiment pas, j'avais pas les timings dans les doigts, et c'est dommage. Et c'est vrai que pour Fire Emblem, je me dis que ce serait intéressant de dire, pour telle mission, j'y arrive vraiment pas, c'est vraiment trop dur, bah j'active le mode casual, tant pis.
Oui, par contre, après, guide, je vais reprendre.
Voilà, c'est ça, c'est le super guide, et je trouve que le super guide est une excellente idée, parce qu'effectivement, oui, ça te permet de dire, bah, t'as crevé plein de fois, est-ce que tu veux qu'on t'aide ? T'as le choix, tu peux dire non, c'est bon, je maîtrise. Ou alors tu peux prendre le super champi, et puis à ce moment-là, bon, ça se fait, il n'y a pas de problème.
Après, pour le gamer élitiste, rien n'empêche de lui dire j'ai fini le jeu sans utiliser le super guide.
Et tu peux très bien mettre une petite étoile ou un petit machin pour dire j'ai fini le jeu sans le super guide, quoi, histoire que même tu puisses même avoir une récompense derrière pour dire aux gens. Ou un achievement qui dit je l'ai fini sans ça.
Même genre, n'enlève pas ton nazi, quoi.
Dans les jeux Nintendo, on a des trucs un peu plus subtils que le mode super guide ou le mode casual. Pour prendre Fire Emblem, on a eu l'horloge de Mila qui permettait de revenir en arrière dans l'épisode Echoes, que j'espère qu'on verra dans Treehouse. Et dans Super Mario, il y a eu l'arrivée de Carotin.
Oui, c'est exactement l'état d'esprit.
Il peut mourir en tombant dans les trous, mais qui globalement est invincible sur absolument tout le reste.
Voilà. Comme ça, au moins, tu joues au jeu effectivement avec une difficulté qui est plus adaptée à toi.
Et d'ailleurs, quand tu choisis le perso, le jeu te le dit direct, lui, c'est le mode le plus facile.
Et ce qui est intéressant aussi, je me permets quand même de... Enfin, je suis désolé, on est un petit peu long sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il est intéressant. Un jour, il faudra qu'on en reparle de manière peut-être un petit peu plus longue. Mais il y a aussi le fait que ça peut être intéressant pour que de jeunes enfants puissent arriver aussi à jouer au jeu. Alors Dark Souls, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Sekiro non plus.
Ouais, oui, oui.
Mais typiquement...
Un Donkey Kong.
Mario Odyssey. Donkey Kong Tropical Freeze. Mario Odyssey. Alors Mario Odyssey, c'est relativement accessible aux enfants. Hein.
Oui, mais tu nous avais dit que ta fille, tu vois, elle joue avec le mode assisté et les
flèches, par exemple. Mode assisté. Parce que, et les flèches, parce que en fait, c'est la navigation dans le monde en 3D qu'elle a un peu du mal, surtout quand les niveaux sont un peu grands. C'est compliqué à son âge. Même si elle est relativement grande. Mais je sais que la première fois qu'elle a joué, elle voulait jouer à Donkey Kong Country Tropical Freeze, et en fait, elle n'y arrive pas. C'est beaucoup trop difficile pour elle. Et avec Funky, le seul problème que ça lui pose, c'est qu'elle n'aime pas Funky parce qu'elle trouve qu'il a une sale tête.
Okay.
Mais globalement, elle arrive à y jouer parce qu'effectivement, il ne meurt pas sur les pics, machin. Ça rend le jeu quand même beaucoup plus accessible pour des enfants qui peuvent découvrir avec émerveillement tout le décor qui s'écroule autour d'eux et tout ça, mais sans avoir la frustration de crever toutes les deux secondes parce que le jeu est vraiment trop difficile. Et c'est pareil, c'est un choix, t'es pas obligé de jouer avec Funky, et je trouve ça cool de pas jouer avec Funky, comme je trouve ça cool de pouvoir proposer de jouer avec Funky si t'as juste envie de faire une partie pour te détendre, et pas une partie pour te foutre les nerfs en plot.
En plus, c'était combiné avec un mode facile, où tu avais, je crois, de mémoire, plus de points de vie, ou des trucs en plus.
T'as plus de points de vie, t'as plus de mal à crever, tu peux flotter plus dans les airs, qui est quand même, déjà rien que ça, ça aide énormément. Je veux dire, l'arrivée de Dixie, ça aide énormément, parce qu'effectivement, t'as plus de air control, donc à partir du moment où t'as plus de air control sur un jeu comme ça, qui a des timings assez serrés, ça aide.
Bah, quand je l'ai fait avec ma copine, on l'a fait en mode facile, et ouais, c'était quand même plus sympa pour elle aussi, parce que elle avait plus de marge d'erreur pour tout ce qui était dégâts et compagnie, quoi.
Exactement, non mais après, c'est tout ça, c'est aussi... Il y a des combats de boss qui traînent en longueur dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Crever à la dernière phase du boss parce qu'il te restait qu'un cœur, c'est rageant, alors que t'as parfaitement compris le pattern et t'as juste raté un mouvement. Voilà, c'est le genre de truc où le fait de dire, bon allez, c'est pas grave, tu t'es loupé à la dernière phase, vas-y, c'est pas grave. Je pense que c'est important aussi à un moment de proposer aux gens quelque chose comme ça, sans que ça devienne un handicap et sans que ça devienne une obligation, hein, parce que, bien préciser tout le monde, hein, faut vraiment que ce soit un choix conscient. Et il faut vraiment aller dire aux gens, écoutez, c'est pas la vraie expérience du jeu prévu. Maintenant, si vous voulez vous éclater, allez-y. Je trouve que c'est plutôt un bon état d'esprit. Après, à utiliser avec modération, bien sûr, il faut pas non plus se transformer en Electronic Arts. Bref.
Non, mais eux, ils feraient payer le mode facile.
T'es un bâtard. T'es un gros bâtard. Alors, je vais vous proposer, je vous avais promis une dégueulasserie.
Hein, j'ai peur.
Moi, ah non, mais là, je vous avais promis une dégueulasserie, donc on va mettre une belle dégueulasserie. Il s'agit de Mortal Kombat. Donc, je préviens, on va très probablement se faire muter par Twitch, je m'en fous, je suis à 100%. Voilà, donc c'est le fameux thème de Mortal Kombat qui est le thème du film, hein, je rappelle absolument pas du jeu, c'est lié à aucun jeu vidéo Mortal Kombat, maintenant ça a été largement repris dans les jeux depuis. Voilà, ça dure 4 minutes de torture.
Oh la vache.
Et oui, je suis un enfoiré, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Nous allons enchaîner avec Monsieur Antix qui souhaitait parler de Red Strings. Donc les...
Vice.
Pourquoi je...
Les ficelles rouges.
Les ficelles rouges.
Alors, le nom exact,
qui est un
c'est...
jeu où on bourre les gens.
Red Strings Club.
C'est pas ça? On bourre pas les gens?
Alors... Donc The Red String Club, de son nom complet. Donc le bar des fils rouges, des fils du destin, tout ça, wink wink. C'est un jeu qui se passe dans un univers cyberpunk où le monde est à la main des méga corporations et où on joue à un barman qui s'appelle Donovan.
C'est donc la France 2019.
Exactement, c'est très start-up nation comme jeu. Enfin non, justement pas trop. On joue Donovan, donc barman du Red Strings Club, donc le bar notoire d'une ville probable en Amérique du Nord, enfin bref. Une quelconque cité cyberpunk, regardez Blade Runner et puis vous aurez une idée.
qui en fait est barman la nuit et la nuit est aussi vendeur d'informations. Donc sa spécialité c'est la récupération et la vente d'informations auprès de des différents clients. Et en termes de jeu, ça va surtout se faire par des choix de questions. Enfin, quand des gens vont arriver, on va leur poser des questions pour obtenir des infos. Ce qui peut paraître assez chiant, la petite subtilité, c'est que en tant que barman, il a une espèce de petit pouvoir un peu spécial qui lui permet de voir un petit peu quel est l'état d'esprit des gens.
Ah, et ça peut commencer à devenir intéressant.
Et du coup, de préparer des cocktails en conséquence pour leur pour renforcer un petit peu cet état d'esprit. Le but étant que avec un certain état d'esprit, on puisse obtenir des informations différentes ou plus intéressantes avec une même question.
D'accord, donc c'est genre le mec, il arrive, il est un peu triste, tu lui fais un cocktail qui le rend encore plus triste, et du coup tu vas pouvoir lui soutirer des informations plus... Enfin, peut-être plus d'informations... Plus triste, oui, ça peut rien dire. Plus d'informations que si tu lui avais juste posé la question bêtement quand il est arrivé, une fois qu'il a bu le cocktail, c'est ça l'idée ?
C'est ça l'idée.
Donc il y a quand même un peu de gameplay, c'est pas juste d'une aventure textuelle.
C'est ça. En fait, il y a tout un côté... alors j'ai cette question, je connais les sentiments de la personne, puisque tu le vois avant de poser les questions, hein, tu peux préparer le cocktail en amont. Tu te dis, bon, par exemple... alors, un truc qu'on te demande très rapidement dès le début, c'est de trouver quel est le nouveau PDG de Supercontinent, qui est un peu la méga corporation qui va servir de cible à abattre pendant le jeu. Et très rapidement, tu vas rencontrer l'avocate de la boîte, et tu vas voir qu'elle a plusieurs états d'esprit. Et tu peux par exemple l'orienter vers un état d'esprit un peu de stress pour obtenir des informations justement au sujet de ce fameux PDG. Parce que c'est censé être un secret plutôt bien gardé, donc c'est pas normal que tu sois au courant. Et du coup, en allant un petit peu dans ces retranchements, tu peux la faire craquer et obtenir des informations, comme par exemple un nom.
Oui, donc il suffit de lui faire un cocktail avec un scorpion dedans, et du coup elle est plus stressée, et c'est bon.
Non, bah, c'est à base de vodka, d'absinthe et compagnie. Mais du coup, c'est un peu le corps du jeu, sachant que au début et à la fin, en fait, les gameplays sont un petit peu différents, parce qu'on va jouer d'autres personnages. Tout d'abord une androïde qui s'appelle j'ai oublié le nom, c'est Arika je crois, un truc comme ça. Alors c'est une espèce de mini jeu de poterie qui est la première fois est sympa à faire, mais en fait si tu veux refaire le jeu c'était le début et moi j'ai pas trouvé ça passionnant. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ces poteries c'est des implants que tu vas mettre à des gens pour répondre à des demandes, et ce qui est intéressant c'est que selon l'implant que tu vas mettre, et ben ils peuvent revenir et tu auras un petit texte qui t'explique un petit peu la conséquence de l'implant que tu as mis. Et les implants, c'est des trucs qui vont nous parler actuellement, puisque le premier qu'on te propose de faire, c'est augmenter ma popularité sur les réseaux sociaux. Du coup, tu peux manipuler un petit peu les implants que tu mets pour voir un petit peu les résultats. Donc il y a un côté un petit peu malsain, mais c'est assez rigolo à faire, une fois que tu t'es fait chier à faire la poterie. Et à la toute fin du jeu, je vais pas aller dans le détail, mais en fait tu vas te retrouver à devoir te faire passer pour des gens pour obtenir d'autres informations.
Ah oui, tu passes une étape là quand même. Ouais, ouais, soutirer des informations et commencer à usurper des identités, c'est...
Ouais, là si vous avez déjà joué, si vous avez déjà vu Ghost in the Shell, on est un petit peu dans cet état d'esprit de hacker... un cœur compétent qui va réussir à obtenir des informations et se faire passer pour des gens afin d'obtenir encore plus d'informations. Pour le coup, cet aspect du cyberpunk est plutôt bien représenté. Et à côté, tu as toute une critique très actuelle sur tout ce qui est les réseaux sociaux, un petit peu au début, mais surtout la technologie, la façon dont les corporations en fait, s'en servent pour récupérer des infos sur les utilisateurs. Et voir, par exemple, il y a toute une histoire avec un forçage de mise à jour... de certaines technologies, et des
avec
idées comme ça.
Avec un téléchargement beaucoup trop gros par rapport au jeu sur la cartouche.
Non, y a pas de ça, mais y a des idées un petit peu comme ça, et je trouve que le jeu marche bien de ce côté-là. Y a une très bonne ambiance aussi, avec des moments où ce qui peuvent être assez pesants, notamment avec un certain personnage qui s'appelle Ghost.
Ah, poterie, Ghost, impeccable.
Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Moi, je me suis vraiment pris au jeu, ça se fait en 3-4 heures. La fin arrive un petit peu vite, c'est ma seule déception. Mais c'est vrai, ouais, exactement. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a une super galerie de personnages. C'est très resserré, mais du coup, y a pas mal de choses à faire, et en plus t'as des moments justement où le jeu te demande un petit peu qu'est-ce que t'as réussi à comprendre sur ces personnages, et si t'y arrives t'as le droit à une petite pilule qui permet un peu de réinitialiser la conversation avec la personne s'il y a des questions que t'as mal posées ou si t'as pas eu les infos que tu voulais. Donc c'est vraiment
d'accord.
Bien.
Mais ça reste, on est d'accord, ça reste quand même un jeu très narratif.
C'est totalement narratif.
On est quand
même
plus dans l'expérience ludique intéressante que...
Ouais, je pense qu'on reste quand même dans un jeu qui a un propos et des choses, enfin une façon de les faire jouer qui sont intéressantes. Je me suis vraiment pris au jeu de l'obtention d'informations dans le bar, à préparer les bons cocktails, essayer de deviner qu'est-ce qui va m'apporter quoi comme réponse. Et assumer aussi le fait que des fois je me plantais complètement.
Ce qui est un peu le pendant du truc, hein, c'est-à-dire forcément tu peux pas gagner à tous les coups sur ce genre de choses là.
Et si tu te plantes justement, ça fait quoi ?
De quoi ?
Si tu te plantes de cocktail et tout, ça fait quoi ? Tu es de le refaire la personne revient dans le bar.
La personne vomit ?
Non, justement, l'histoire continuera même si tu t'es complètement gouré sur les questions. T'auras beaucoup moins d'infos et tu pourras du coup peut-être t'auras plus de mal à en obtenir.
Ouais.
Mais après, en soi, ça reste un jeu narratif et quoi qu'il arrive, tu verras la fin du jeu normalement. C'est juste que peut-être que la dernière phase sera un peu plus compliquée parce que t'auras moins d'infos.
Alors, sauf si tu fais des cocktails au vomi à tout le monde où effectivement, personne vient dans le bar et tu l'as dans le cul, quoi.
Là, c'est forcément.
Ouais, mais après, si tu forces hein, aussi. Voilà, bon, merci Antix, ce petit résumé. Donc, Restrinkle, ça coûte combien ?
Alors ça coûte...
moi, 15 balles.
Ouais, moi j'ai eu, il y avait la promo à la sortie. J'aurais un petit bémol sur la version Switch.
Il y a un peu un portage... Il n'y a pas tout le jeu sur la cartouche.
Exactement, parce qu'il n'y a pas de cartouche. C'est ça la subtilité. Non, c'est que c'est un portage un peu bête et méchant de la version PC, et notamment le fait que il y a un curseur qu'on contrôle au stick. Alors, c'est pas le jeu tactile.
Ah là, ça c'est moche. Ouais, c'est vraiment moche.
Et ça, pour le coup, c'est pas top. Heureusement que le jeu est court.
Et... j'ai l'impression qu'ils font ça à chaque fois en fait. Il y a tous les jeux un peu point and click, tu peux rien faire au tactile et c'est tout pourri quoi.
Non, justement là tu peux jouer au tactile.
Ah, t'as la moitié en fait. Non, du coup,
mais par contre, pour la partie cocktail où tu les fais, où tu dois verser et compagnie, vaut mieux faire ça au pad. Mais il y a un côté curseur qui du coup fait un peu portage vite fait mal fait. Okay. Et il y a une VF, enfin il y a une traduction française qui est vraiment réussie.
Ça c'est quand même plutôt un bon point parce que c'est vrai
et pour un jeu aussi narratif c'est vraiment bien.
Ouais, c'est vrai que j'ai récemment, enfin on parlait des versions françaises de Stardew Valley qui est toujours pas arrivé et
ou de Phoenix Wright aussi.
Voilà, non mais je suis en train de larguer Gold Story parce que ça m'a gonflé comme prévu. Hein. C'était je m'attendais à ça.
Pourtant c'est un jeu de golf. Hein.
Non, le jeu de golf moi j'aime bien. Ça me pose vraiment pas de problème. Je pense que
mais c'est un RPG.
C'est le story qui va pas. Le golf,
ah bah oui.
Pas si mal que ça, même si. Enfin, je rappelle que je dois être celui qui a passé le plus d'heures dans sa vie sur Mario Golf, sur tout dans toute cette émission. Hein,
c'est fort probable. Hein.
Sans aucun
Mario
problème.
Tennis.
Donc voilà. Mais le jeu est toujours pas traduit et c'est un peu dommage aussi parce que la version anglaise est très bien, mais je me dis que ce serait pas si compliqué que ça de le traduire et d'arriver à faire des choses un peu intéressantes en français pour ce jeu-là, pour Stardew Valley, pour les jeux où il y a beaucoup de texte, ça rend quand même le truc plus accessible à des non-anglophones.
Bah, des plus noirs.
Surtout que Stardew Valley, t'as genre une version russe ou une version polonaise, voire les deux.
Le développeur est pas polonais ou russe ou je sais pas quoi.
La version FR, elle arrive bientôt pour Stardew Valley.
Ouais, enfin, ça fait 4 ans qu'on nous dit ça.
Enfin, non, je crois qu'elle est déjà arrivée, mais c'est totalement pété, en fait, au niveau des trades. C'est un truc comme ça.
Oui, du coup, je l'ai sans l'air. T'as une baston entre les gens de la traduction française et de la traduction québécoise.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui,
il y a toute une embrouille sur le nom des fruits qui n'est pas exactement
même
les mêmes.
Écoute, c'est pas la même chose. Tu peux pas dire que c'est exactement pareil.
C'est pas la même langue.
Tu peux pas appeler une patate, c'est pas une patate. Comment tu fais sinon pour arriver à comprendre? Bref, on salue tous nos amis du Québec, hein, bien sûr. On vous kiffe, les mecs. Yo. Vraiment. Et donc, le deuxième petit jeu indé dont on voulait parler cette semaine, parce qu'il est vraiment intéressant, c'est Apprends à programmer avec Baba. Parce que c'est à peu près le...
Apprends à casser le jeu avec Baba aussi.
C'est un peu ça. Alors, Yoshirio, non, ce n'est pas une trad au schnapps, puisque c'est le Canada. C'est une trad au whisky du Canada. Qui est dégueulasse par contre. Le whisky du Canada, n'en buvez pas, c'est de la merde. Voilà, donc je vais laisser la parole à... Je sais pas qui, parce que Baba Is You, il me semble que Mecton, tu y as joué.
Non.
Moi, je l'ai, moi.
C'est encore moi, je crois.
Voilà, alors il y a Fro et Antix qui vont parler. Je vais laisser Fro commencer pour
deux
expliquer
jeux
le principe
à moins
de Baba Is
mégas.
You.
Oula, tu veux me laisser ça? Oula, là, non, Antix, t'avais...
Expliquer le principe.
T'avais peut-être prévu quelque chose, non, Antix? Je sais pas.
J'avais prévu de faire ça à l'arrache, comme d'hab.
Tiens, la petite patate chaude, là.
Non, la patate chaude.
Bon,
la patate chaude.
Vu que Frost défie, je le fais du coup ou pas?
Vas-y. Bon, le principe est quand même assez simple, c'est pratiquement un jeu de programmation.
Enfin, tu joues avec les règles. C'est un puzzle game, on va dire, qui tourne autour de la programmation, qui s'appelle Baba Is You. On joue un petit rongeur qui s'appelle Baba, et dans la majorité, la majorité du niveau, il faudra atteindre le drapeau, parce que Flag Is Win.
Il va falloir expliquer toutes ces phrases et ces morceaux de phrases, parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué.
Maintenant que vous m'avez complètement perdu, on va expliquer un petit peu le concept du jeu. C'est que c'est un puzzle game, donc dans lequel notre personnage va pouvoir pousser des choses, et dont la plus grande subtilité, et ce qui fait tout l'intérêt du jeu, c'est que tous les puzzles, je dis bien absolument tous les puzzles, le joueur a la possibilité de jouer avec les opérateurs qui font les règles du niveau. Donc j'ai parlé par ailleurs de Baba Is You et de Flag Is Win. Donc, tous ces mots sont des blocs indépendants que je peux bouger. Donc, par exemple, je peux faire un Baba Is You, en même temps, Baba Is Win. Et je crois que j'ai encore perdu encore plus de monde.
Attends, je balance un gif sur le Twitter pour expliquer.
En gros, l'idée, c'est que voilà, le développeur a introduit au fur et à mesure plein de nouveaux opérateurs. Donc, tu vas avoir du Wall-E Stop pour dire que les murs vont bloquer, mais si jamais tu arrives à bouger un mot du Wall-E Stop, ben tu vas pouvoir passer les murs. Donc en fait, tu es en train de dire c'est là où la partie programmation entre plutôt en jeu, c'est qu'en fait tu casses la ligne de code qui dit que le mur te bloque. Et du coup, tu peux passer.
En fait, c'est ça finalement. Tu peux. C'est un puzzle game dans lequel tu as à la fois les contraintes des règles d'un puzzle game, donc genre effectivement les pièces descendent de telle manière. Je caricature un peu, mais voilà, ça permet quand même de se faire une petite idée. Et en même temps, tu peux aller aussi casser les règles elles-mêmes si tu y as accès, entre guillemets, c'est-à-dire aller déplacer des mots pour dire bah, finalement, je contrôle le mur et je contrôle plus Baba, par exemple.
C'est ça. Ouais. Ça peut aller jusque-là. Et des fois, tu as des trucs assez extraordinaires qui se ramènent où, effectivement, tu bouges tous les murs du niveau pour atteindre le drapeau.
Il y a quand même un truc, c'est qu'en fait, dans le jeu, tu ne joues pas Baba. Parce que
je joue pas toujours Baba.
Ouais, en fait, j'ai vu des vidéos, enfin du comment il s'appelle, Harvey T. Carey, un truc comme ça, le créateur du jeu, il expliquait que au début, en fait, tu joues Baba, mais finalement, le joueur, c'est You. Et Wall peut être You, par exemple. C'est Wall Is You, donc tu déplaces le mur. Flag Is You, tu déplaces le drapeau. Si Baba is Wall, tu pourras pas déplacer ton personnage. Faut que You soit toujours attaché à quelque chose.
Oui, ça, c'est la règle la plus importante.
C'est très quatrième mur, ça, comme...
C'est totalement ça.
Ouais.
Ça a l'air quand même hyper pété, comme jeu. Enfin, je veux dire, j'imagine pas que le truc ait une solution... Enfin, je suppose qu'il y a plein de niveaux dans lesquels il n'y a pas une unique solution.
Non, je pense qu'il y en a, il y a plusieurs. Mais en gros, passer les premiers niveaux qui sont relativement simples... Et le premier monde, même, le jeu commence à devenir vraiment très, très tordu parce qu'il va rajouter des opérateurs supplémentaires. Tu n'auras pas que du Baba Is You. Tu vas pouvoir avoir du Is Not. Donc tu pourras lui dire, par exemple, que tu pourras annuler l'action d'un élément du décor. Donc Wall Is Not Stop. Du coup, tu n'es plus bloqué par le mur. Tu vas avoir des cas où un objet va contenir un autre objet, donc il va falloir que tu trouves un moyen de le détruire pour pouvoir avoir accès à cet objet. Et plus ça avance le jeu, et plus ça devient complètement ma boule. Je crois qu'il doit y avoir 200 puzzles, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, il y en a 200, ouais.
Moi, j'ai craqué au bout de 210, un truc comme ça, quoi.
T'as réussi à aller jusqu'au bout du jeu ou pas, du coup?
Je sais pas s'il y a une fin dans le jeu.
Je sais pas non plus, j'ai pas terminé.
C'est quoi, c'est les puzzles sont générés aléatoirement ou ils sont
non,
tous...
Non, ils sont tous écrits à la main.
C'est pété comme truc.
C'est vraiment des énigmes. Hein.
C'est très 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 bien pensé.
Ouais, faut vraiment prendre ça comme des énigmes. Hein. T'as tout le temps un but, et le but c'est tout le temps à peu près le même, c'est d'aller à l'objet qui est win, enfin qui est gagnant en fait. Ça peut être le flag, enfin le drapeau, mais ça peut aussi être le mur. Wall Is Win, par exemple, bah, si tu arrives à te déplacer jusqu'au mur, bah, du coup, tu gagnes. Et le but, enfin, vraiment, le but du truc, je pense que c'est de jouer avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo.
Est-ce que c'est le genre de truc qui se prêterait bien à du jeu en coop, par exemple, c'est-à-dire
totalement.
À deux à se prendre la tête devant l'écran, carrément, ouais. Enfin, c'est typiquement ce genre de truc, quoi, on est d'accord.
C'est exactement
c'est,
ça.
C'est hyper drôle, c'est parce que personne ne réfléchit de la même manière. Et moi, je l'ai testé avec des gens à 3D Assinante, et moi, j'ai une vision dev, donc voilà, forcément, je fais des opérateurs, il faut que ce soit logique et tout. Et les autres gens, pas du tout, quoi. Enfin, ils y arrivent quand même, mais d'une manière complètement différente. Donc c'est ultra cool, à jouer à plusieurs, c'est ultra cool.
Faut qu'on propose à Galaxies et Dross Bâtard de faire un stream ensemble et d'essayer de finir deux niveaux de Baizu, à mon avis ça va être énorme.
Mais pour moi j'avais regardé un petit peu le stream de Game Cult, et en fait je me prenais au jeu d'essayer de résoudre les énigmes avant que Gotos y arrive. Et je trouve ça vraiment super chouette, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de jouer au jeu.
Assez spécial hein, quand même, hein, parce
c'est spécial.
Il est pas très très joli quand même.
Non, c'est minimaliste. Moi, ça me rappelle les jeux pour ordinateur à l'époque où j'étais en maternelle, donc c'était il y a 25 ans facile, un truc comme ça. Très très minimaliste, des formes extrêmement simples, voire limite abstraites par moment.
C'est pas un hommage plus ou moins appuyé aux ZX Spectrum ou à ces ordinateurs de...
Non, je pense que c'est juste parce que le mec est tout seul.
En fait, le gars, il est tout seul, et c'est un jeu qui est sorti dans une game jam. Donc, il a mis 24 heures pour le faire.
Et, le concept est sorti dans cette game jam.
Ouais, non, mais je veux dire, le concept, voilà. Donc, du coup, au niveau graphisme, il s'est pas fait chier, quoi. C'était le plus rapidement possible.
Parce que je sais que moi, c'est ce qui m'avait sorti de Super Slime Sun, par exemple, c'est que les graphismes sont juste atroces, et je j'avais pas réussi à...
Ouais, mais là, ça va. Enfin, franchement, Je sais pas, moi j'ai pas eu de problème là-dessus.
Disons que c'est simple et clair, et en fait tu comprends immédiatement généralement. Ce qui est le plus important. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est un jeu qui sera exclusivement en anglais probablement, parce que le concept se base uniquement là-dessus.
Ouais,
enfin, sur les phrases en anglais. Et c'est aussi un jeu quand tu te plantes.
C'est quand même pas compliqué là. C'est juste des petits mots. Donc
oui, ça reste du globish un peu dégueulasse.
C'est du anglais 6ème.
Voilà, si quelqu'un lit pas anglais, c'est pas trop grave quoi.
Et surtout, ce qui est un jeu qui est très... On parlait d'accessibilité tout à l'heure, et c'est pas un puzzle game où si tu te plantes, parce que c'est très facile d'arriver à un moment où t'es complètement bloqué, tu vas devoir tout recommencer depuis le début en revenant sur la vague compliquée. T'as un bouton pour recommencer depuis le début, et t'as un bouton pour rembobiner si tu t'es gouré ton action.
Ah, c'est cool.
Ah, ça c'est sympa.
Et c'est... En fait, à mon avis, c'est ce qui fait que le jeu, malgré le fait que parfois les énigmes sont complètement tordues, tu te retrouves à quand même enchaîner les puzzles, parce que tu peux revenir en arrière si t'as fait une erreur. Donc ça veut dire que tu peux tester. Et donc tu peux vraiment essayer d'expérimenter le plus possible pour comprendre comment résoudre ce niveau. Et ça, je pense que c'est une énorme qualité de ce jeu, qui fait qu'en fait c'est très agréable à jouer. Même si c'est très très dur.
Quand t'as un jeu qui est très expérimental comme concept, parce que je pense que quand t'as du mal à l'expliquer, quand t'as énormément de mal à expliquer un concept, c'est que c'est forcément un petit peu expérimental. Il faut pousser le truc jusqu'au bout et permettre aux gens d'expérimenter, sinon ça n'a aucun intérêt.
Mais c'est un jeu d'expérimentation, et puis c'est toi qui vois comment... En fait, il n'y a pas de tutoriel qui va t'expliquer qu'est-ce que va faire cet opérateur. Ça va être à toi de le comprendre... Il y a toujours des niveaux qui sont un petit peu dédiés, il y a une progression en level design qui est très malin. C'est-à-dire que très souvent, les premiers niveaux des mondes vont te montrer quel est le nouvel opérateur de ce monde-là. Donc si c'est une action un peu particulière ou un...
Ça peut être une action, ça peut être un objet, ça peut être
un
opérateur au sens égal, supérieur, un truc comme ça.
Il peut y avoir par exemple des... Alors de mémoire, il y avait des... Bah, je vais parler du Znote par exemple. Il y a le As qui contient les objets. Je crois qu'il y a le On qui est quelque part aussi. C'est si tu mets un objet sur un autre, ça permet de faire une action. Tous ces éléments-là, dans les premiers niveaux, c'est des énigmes assez simples qui vont te permettre de les expliquer. Et plus tu vas avancer, plus ça va se complexifier. Ils combinent assez rarement les opérateurs, mais enfin des opérateurs spécifiques à chaque monde. Mais tu te retrouves très rapidement à avoir une complexification dans le niveau, mais ce qui fait qu'aussi si jamais tu as du mal avec un type sur certains tableaux, et bah, tu peux essayer de passer sur un autre avec une logique différente, et peut-être que là tu y arriveras mieux.
Putain, ça fait vraiment envie en fait.
C'est
un
très,
jeu d'énigmes, très... c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent, en plus parce que c'est pas vraiment un puzzle game, ça va peut-être un petit peu plus loin que ça.
Bah, ça reste un puzzle game, mais c'est... Il y a un twist qui le rend extrêmement malin et qui, moi, fait que j'ai accroché quand même sur une centaine de puzzles avant de décider que j'en avais marre. et que j'en pouvais plus.
Ou ton cerveau, il était pas fait pour aussi, tu sais.
C'est le genre de truc où tu découvres que finalement t'as peut-être pas 102 de QI, t'as peut-être beaucoup moins.
Ouais, j'ai quand même fait la moitié du jeu, je suis quand même content, tu vois.
Voilà. Ça coûte combien ce petite chose?
Pas beaucoup plus cher que Restream Club, je crois que c'est entre 15 euros.
C'est 12,50€.
Et ben voilà et encore un très bon plan.
Et pour info, il y a la version de la Game Jam, donc qui date de 2017 apparemment, qui est dispo sur itch.io. Sur PC du coup. Et c'est pas du tout pareil. Baba, en fait, enfin, les graphismes sont encore vraiment différents, quoi. Donc, en gros, il a quand même bossé les graphismes, mais pas beaucoup.
Mais en gardant le minimalisme, quoi.
Ouais, voilà. Mais je pense que si tu mets trop d'effets, trop de machins, déjà, ça sert à rien.
Non, mais franchement, s'il tourne pas sur Unreal Engine 4, moi, j'achète pas. Hein. Ça, c'est fait. J'ai été, par exemple, extrêmement surpris de voir que Gold Story tourne sur Unity, donc il rame.
Oui, bah...
Voilà, bref.
Et le dernier Yoshi tourne sur Unreal Engine 4.
Il rame pas.
Voilà.
Ah bah oui, comme quoi c'est une question de savoir-faire. Bref, on va marquer une deuxième pause musicale, et comme j'ai bien envie de vous faire chier ce soir...
Bisous Galaxies.
Voilà, c'est le Dark Souls des portals, putain, c'est quoi. Merci Galaxies. Bref, je vais vous faire chier encore avec la bande originale de Mortal Kombat 2. Alors là, cette fois-ci, c'est pas Mortal Kombat. Voilà, alors Mortal Kombat 2, c'est pas forcément un jeu qui est connu pour sa musique, parce que les musiques de Mortal Kombat, c'est essentiellement énormément de thèmes tribaux, en fait. C'est surtout ça, c'est beaucoup de percussions, beaucoup de cordes raides et des choses comme ça. Enfin, c'est des choses...
C'est comme la DA, c'est d'assez mauvais goût.
C'est d'assez mauvais goût, mais c'est pas inintéressant quand même. Parce que il y a vraiment des morceaux de percus vachement sympa et de la musique qui fait presque tribal, et c'est assez cool en fait parce que ça colle bien au niveau. Alors le problème en fait des Mortal Kombat, c'est que finalement la BO elle est très très réduite. En général il y a 3-4 morceaux et il y a même pas un thème par
Street Fighter.
C'est pas comme Street Fighter, t'as un thème par niveau, là t'as vraiment genre 3-4 thèmes qui sont recyclés à travers plusieurs niveaux, surtout sur les anciens.
Enfin, Street Fighter c'était même un thème par perso à l'époque.
Oui, tout à fait. Voilà, donc là, c'est un peu plus réduit. Donc, ce thème-là s'appelle The Pit 2 Stage. Donc, The Pit, c'est le fameux niveau dans lequel on se bat sur un pont, et en bas, il y a les pics, où on peut envoyer le mec. Ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Alors,
tant pis, Fro, tu ne finiras pas ta phrase.
C'est pas grave.
Ah, mais c'est pas grave. Non, oui, je parlais un petit peu en off de Mortal Kombat 11, pour lequel j'étais bien saucé, et que quand j'ai vu que la cartouche contenait moins de 8 gigas parce que les mecs sont hyper cheap, on a fait un petit article dessus hier pour dire que, parce que j'étais vraiment en colère, et ça m'a un peu gâché ma journée, ce qui est un peu triste. Pour une journée qui est déjà mal engagée, d'habitude j'aime bien, je préfère avoir des bonnes nouvelles pendant les mauvaises journées.
C'est bien bizarre.
Voilà. Mais bon, bref. Donc on avait dit qu'on ferait une petite rétrospective Wolfie pour fêter la sortie de Wolfenstein Youngblood, qui va être le premier Wolfenstein qui va sortir sur Switch en même temps que sur les autres plateformes. Il n'aura pas 6 mois ou un an de retard, il va sortir en même temps, il est fait par Panic Button. Il y a une grosse carotte de Bethesda, puisque la version boîte qui sort en boîte et pas une version boîte physique.
Le jeu en lootbox
dans le shop.
Attends, quoi?
La version boîte qui sort en magasin n'a pas de cartouche, en fait, c'est juste un code de téléchargement.
Ah putain, ouais, ils font comme Capcom avec les...
J'ai entendu, c'est un jeu en lootbox. Je trouve ça très bien.
Carrément, ouais.
Non, mais enfin, moi, je vais peut-être adresser l'éléphant dans la pièce. Je suis un code physique, oui, c'est exactement ça. je trouve ça. Enfin, je comprends pourquoi ils le font, parce que c'est un jeu qui a un prix budget. Il sort à 30 euros.
C'est la présence magasin.
Je pense que c'est la présence magasin, mais je trouve ça un peu ridicule. J'aurais préféré qu'ils fassent un carton avec le code de téléchargement. Je trouve que ça aurait été plus honnête.
D'ailleurs, je pense que ça va se faire de plus en plus que. Enfin, ça... un autre sujet, mais il y a Sony qui interdit maintenant les vendeurs genre GameStop et autres aux États-Unis de vendre des cartes de code de jeu sur le PlayStation Store. Mais du coup, c'est pas une carte, là c'est une boîte.
Ouais.
Donc il y a peut-être une petite astuce.
C'est peut-être ça la carotte aussi. Moi je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que si le jeu... Enfin c'est un jeu budget, donc ça m'étonnerait qu'il fasse 50 gigas. Mais sur Switch, il suffit que le jeu fasse 9 gigas pour qu'il nécessite une cartouche de 16 gigas et pour que donc il soit vendu... en moyenne sur Switch, c'est à peu près 10 euros plus cher quand le jeu fait 16 gigas. Darksiders Warmastered Edition, il est sorti à 20 balles sur PS4, 20 balles sur Xbox One et 30 balles sur Switch avec une cartouche de 16 gigas. Et je pense que, je dis pas que c'est abusé, je pense que c'est les prix que pratique Nintendo malheureusement. J'espère on avait déjà fait un petit article il y a un an et demi pour dire, il y a vraiment un problème de stockage, il va vraiment falloir que Nintendo baisse ses prix de cartouches et rapidement, et qu'éventuellement ils prennent une paume là-dessus ou qu'ils se bougent un peu le cul parce que ça va finir par poser problème, surtout pour les jeux budget. Et je pense qu'en fait là, c'est juste ça, c'est un jeu budget, il coûte 30 balles. Et donc Bethesda s'est dit, c'est malheureusement sur Switch, s'il fait 8 gigas, on peut peut-être tenter un truc, s'il fait 9 gigas, ça vaut pas le coup. Je trouve ça triste, j'aurais préféré qu'ils annoncent que le jeu était seulement disponible sur eShop, sur Switch, ça aurait été, je pense, plus honnête que de
après,
mettre cette espèce de boîte avec un code.
Après, c'est aussi Bethesda, ils peuvent très bien prendre une cartouche 16 Go et mettre le jeu à 30 balles.
Ouais, mais bon, est-ce que...
En même temps, Bethesda, ils n'ont pas d'argent, c'est vrai.
Ouais. Un gros jeu comme Wolfenstein, pas en magasin, même si le jeu est en téléchargement uniquement, ils ne pouvaient pas se le permettre.
Ouais, mais dans ces cas-là, qu'ils mettent un carton, quoi. Enfin, tu vois, là, c'est du gâchis de plastique et c'est à peu près tout.
Ah, je suis d'accord, autant mettre un carton et te filer le code. Hein.
Surtout si tu... Voilà, enfin, moi, je vois vraiment pas bien l'intérêt, mais... Bon, bref, donc ça m'a fait chier parce que moi, je l'aurais bien acheté. Maintenant qu'il est que en démat, je l'achèterai peut-être, mais quand il sera en promo et encore... Et c'est dommage parce que j'étais vraiment bien saucé, l'ambiance a vraiment l'air d'être sympa, mais voilà, on va commencer par notre... Bientôt chez Super Rare Games, j'espère bien, Yoshirio. Ça me ferait hyper plaisir qu'ils sortent en physique. J'aurais bien aimé, tu vois, les mecs, ils auraient mis une édition collector, même pour un jeu budget, c'est-à-dire un jeu court, je sais pas, 3-4 heures, ils ont mis une édition collector à 50 balles, je pense que je les aurais lâchés.
Avec un petit pins de croix gammée.
Avec un petit pins de
croix. Hyper classe.
Non, le petit pins, c'est... Non, deux S que tu peux arranger comme tu veux. Voilà. Donc on va faire une
petite rétrospective dans le marketing.
Wolfenstein, alors je sais pas si vous savez, mais Wolfenstein en fait est un jeu qui a eu deux vies distinctes, c'est assez rigolo. C'est un jeu qui a été créé par Silas Warner, je sais pas si vous savez qui est Silas Warner.
Non, tu peux nous le dire, tonton mortal.
Mais je vais vous le dire, c'est un des premiers mecs qui a commencé à programmer des jeux vidéo. Pour de vrai, c'est-à-dire au tout début des années 70, c'est un des premiers gars qui a commencé à programmer des jeux vidéo sur un truc qui s'appelait le Play-Doh. Alors ça n'a rien à voir avec la pâte à modeler. Hein. En fait, c'est des gros mainframes qui étaient utilisés par des universités américaines dans lesquelles il y avait des terminaux graphiques au bout. Et en fait, le mec a commencé à programmer des jeux là-dessus, et il a programmé notamment des simulateurs de vol, il a programmé un des premiers jeux de stratégie en temps réel dessus. Alors faut voir, c'est des jeux hyper archaïques, hein. Je veux dire, c'est du niveau de Tennis for Two, des choses comme ça, quoi. C'est
ouais, assez pionnier, quoi.
C'est assez marrant, c'est vraiment un pionnier là-dessus. Et donc en 1981, il sort sur Apple II un jeu qui s'appelle Castle Wolfenstein, et qui en fait est un jeu d'infiltration, qui est d'ailleurs relativement complet et relativement complexe. Je vous invite à l'essayer.
81,
il y a Beyond Castle Wolfenstein en 83 pour moi. C'est le. Alors je
sais plus, bref.
Peut-être pas bon sur la date, c'est possible. Voilà, c'est des jeux qui sont en fait inspirés d'un jeu d'arcade qui s'appelle Berserk, qui est en fait un jeu en vue du dessus où t'es un robot qui tire sur des trucs. Sauf que là, t'es un prisonnier de guerre qui essaye de s'échapper de Castle Wolfenstein qui est tenu par des nazis. Et le truc rigolo, c'est que tu peux les tuer, évidemment, mais t'as une quantité de munitions limitée, parce que c'est quand même un jeu d'infiltration. Tu peux passer derrière eux, tu peux les soudoyer, c'est-à-dire tu peux leur filer du pognon ou des cadeaux pour passer. Tu peux, plutôt que de leur tirer dessus et de gaspiller des munitions, tu peux essayer de t'approcher d'eux et en fait les menacer avec ton arme jusqu'à ce qu'ils lâchent la leur et qu'ils se réfugient dans une cellule ou un truc comme ça.
Pour l'époque, c'est ouf.
Il y a vraiment énormément de possibilités et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Silas Warner est décédé il y a une vingtaine d'années et en fait son épouse a mis tous les jeux qu'il a créés dans le domaine public. Donc ce sont des jeux qui sont gratuits et qui sont dans le domaine public, c'est hyper classe. Donc vous pouvez l'essayer sur, je crois que c'est archive.org sur lequel on pouvait essayer un certain nombre de jeux Apple II, sinon des émulateurs Apple II, il y en a un peu partout. C'est pas très compliqué à faire, je vous conseille de l'essayer. Vous allez être surpris parce que même si les graphismes sont hyper simplistes, forcément c'est de l'Apple II, vous allez voir que le jeu est quand même relativement complexe.
En 4K quoi.
Pas inintéressant. Vraiment pas inintéressant. Et là, tout le jeu est sur la disquette, ce qui est quand même... Ça fait plaisir, voilà. Bisous, bisous.
C'est marrant, je sens qu'il y a une espèce de, mais de rancune.
J'ai passé une hyper mauvaise journée, moi, hier. Vous vous rendez pas compte. Bref, donc les petits gars de quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, en fait, les petits gars de Wolfenstein, qui étaient apparemment, enfin de id Software, pardon, qui étaient des fans de Wolfenstein, l'original, ont voulu le refaire avec le nouveau moteur de John Carmack, qui permettait donc de faire des jeux en presque 3D. Je rappelle, Wolfenstein 3D et Doom, c'est pas de la 3D. C'est de la 2D qui est rendue de gauche à droite, en fait.
Avec une astuce de programmation pour t'apprendre dans toutes les écoles d'info.
C'est ça. Comme le processeur va très vite, t'arrives à le faire. C'est assez rigolo, mais voilà. Donc, les mecs se disent, on pourrait faire un remake de Wolfenstein, enfin de Castle Wolfenstein, et ce serait en réalité pas très compliqué à faire. Et finalement, ils commencent à le faire. Le problème, c'est que Romero voulait donner un côté plus action, ça collait pas, donc bah, c'est pas grave, ils ont fini par faire un jeu d'action. Et au moment de se poser la question de bah, est-ce qu'on va pouvoir avoir la licence de Wolfenstein, ils se sont rendu compte que en fait, bah, la société qui avait produit Castle Wolfenstein et Beyond Castle Wolfenstein sur Apple II était morte depuis longtemps et qu'en fait le copyright il était libre, donc ils ont pu appeler leur jeu Wolfenstein 3D, qui n'est absolument pas en 3D, et qui est donc un jeu qui est mi-chemin entre le FPS et le dungeon crawler. C'est-à-dire que finalement, chaque niveau est un étage, et en fait l'objectif c'est de nettoyer complètement l'étage, ou pas d'ailleurs, puisque c'est simplement d'aller à l'étage suivant, mais en général il te faut la clé, et pour avoir la clé, t'es obligé de tuer des nazis, des chiens, des robots,
Hitler, robots, tu parles du boss de fin,
des nazis robots.
Voilà, c'est un
Mecha-Hitler.
Mecha-Hitler nazi-robot, c'est un jeu qui est assez irrévérencieux aussi, puisque finalement il y a plein de références à tout un tas de trucs qui ne devraient pas l'être. Enfin voilà, ça montre clairement des croix gammées, des portraits d'Hitler partout. Enfin, les mecs se sont un peu lâchés, mais finalement, c'est id Software aussi.
Est-ce que les croix gammées n'ont pas été censurées justement en Allemagne ?
Sur la version Super NES.
Ouais. Alors, sur la version Super NES, elles ont été censurées. En Allemagne, elles ont été censurées.
Bah, ils renient leur histoire, les mecs.
Un petit peu, mais à l'époque, c'était interdit. Aussi, hein.
Ouais,
c'était interdit aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est surtout qu'un jeu qui était en shareware. C'est un jeu qui a plusieurs épisodes. Et donc l'épisode 1 était disponible dans des magazines où tu pouvais en faire une copie à tes potes, il n'y avait pas de problème. Et si ça te plaisait, en fait, tu pouvais envoyer un courrier à id Software qui t'envoyait les disquettes avec le reste du jeu. Je trouve ça toujours rigolo, le concept de shareware. C'est-à-dire que le premier niveau était gratuit, tu pouvais vraiment le filer à tes potes comme tu voulais. Et en fait, Doom, Duke Nukem 3D, tous ces jeux-là fonctionnaient avec... Enfin, il y avait systématiquement une version shareware, c'est-à-dire une version où tu avais le premier niveau sur une disquette, ou le premier épisode, en l'occurrence, sur une disquette, et si ça te plaisait, bah, tu pouvais juste acheter le raid par correspondance.
Donc tout le jeu n'était pas sur la disquette d'origine.
Et
alors
voilà.
Ça dépend.
Okay.
Prince of Persia sur micro-ordinateur, Prince of Persia,
ouais,
c'était la clé de déverrouillage, en fait, c'était une énigme que tu pouvais pas résoudre si t'avais pas physiquement le bout de papier qui te permettait de la résoudre. Mais t'avais tout le jeu sur la disquette.
Ah, le truc avec les potions, c'est ça?
Exactement.
Ouais. Ouais.
Alors effectivement, Yoshiryu, c'est comme la drogue, le premier échantillon est gratuit. Mais du coup, ça a super bien marché pour les mecs de id Software, puisque même s'ils n'ont pas du tout inventé le FPS, c'est quand même le premier first-person shooter qui a vraiment eu un succès suffisamment grand pour paver derrière le chemin pour Doom, qui va évidemment tout écraser sur son passage, et derrière Duke Nukem 3D, Quake, Half-Life, tous ces gens-là...
Call of.
Voilà, tous ces gens-là vont se glisser dans la faille et aller là-dedans. Alors, ce qui est rigolo avec Wolfenstein, en fait, quand tu regardes un petit peu, c'est que les jeux sont très représentatifs des FPS de leur époque. Est-ce que tu peux fermer ta gueule, le cochon d'Inde ? Qu'est-ce que c'est que ça, putain ?
Heil, il fait, tu vois ?
C'est peut-être ça. Boum ! Et le cochon d'Inde, il est à fond. Il joue à Wolfenstein, il n'en peut plus. Bref, donc il faudra attendre 2001 pour voir le retour de Wolfenstein. Alors, Wolfenstein 3D, c'est 91. 92 ? Je vais pas dire de conneries.
92,
merci. On est sûr. Il y a une extension qui s'appelle Spear of Destiny qui en fait rajoute 2 ou 3 épisodes. Et en fait, quand on joue au jeu maintenant, tu as normalement les 6 épisodes et en général, on te rajoute Spear of Destiny. Je crois que les versions que tu peux acheter aujourd'hui en dématérialisé évidemment. Sur PC, en fait, c'est ces versions-là. Et je rappelle que l'intégralité de Wolfenstein 3D est jouable dans Wolfenstein 2 The New Colossus.
Eh, sérieux,
c'est ça ? Bah oui, oui, dans la salle d'arcade en haut, dans le bar.
Ah putain, je suis passé à côté.
Bah tu peux aller, tu te mets dessus, tu peux jouer à l'intégralité de Wolfenstein. Je pense que ça n'a pas dû leur coûter grand-chose sur la cartouche.
Excellent.
Ah non, je pense que c'est ça qui fait que c'est en démat sur Switch.
Bâtard. Et ce qui est, enfin, la version Switch d'origine, ça a été patché depuis. En fait, le jeu tourne à 30 images par seconde sur Switch. Enfin, c'est le framerate qui est le framerate cible de Panic Button. Et en fait, le problème, c'est que du coup, Wolfenstein 3D, qui est à l'intérieur de Wolfenstein 2, tournait à moitié moins vite.
Ah, ok.
Les mecs n'avaient pas adapté le truc. Et en fait, il y a eu un patch spécial juste pour corriger ça.
Putain, c'est quand même très cool.
C'est
cool.
C'est très, très, très cool, je trouve. Bref, en 2001 sort Return to Castle Wolfenstein.
Ah, celui-là, j'y ai joué beaucoup.
Ah, celui-là, quand on était jeunes, on y a tous joué.
Ouais, énormément.
Ah, y'a.
Donc, c'est alors pareil, c'est un FPS très représentatif de son époque, puisque finalement, ça ressemble beaucoup à des jeux comme Quake ou Medal of Honor ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est l'ambiance Seconde Guerre mondiale d'un Medal of Honor avec des armes réalistes. Il y a quelques armes un petit peu cheloues, un petit peu.
Steampunk.
J'aurais dit plutôt dieselpunk en ce qui concerne.
Diesel, ouais.
On est plus là-dedans. On reviendra sur le dieselpunk un tout petit peu après. Mais t'as genre le pistolet Tesla qui fait effectivement un truc d'électricité qui rebondit sur les ennemis. Enfin, c'est marrant, il y a un lance-flamme qui est un peu délirant. Ce genre de choses-là. Ça reprend un petit peu l'état d'esprit de Quake, tu sais, avec ses châteaux très gothiques et tout ça. Donc t'as des décors un peu gothiques et on te met beaucoup d'occultes là-dedans, puisqu'en fait tu retournes au château de Wolfenstein pour aller t'attaquer à la division paranormale de la SS. Tout normal, qui essaie de manipuler des zombies, de faire revenir des démons. Enfin bref, c'est tu sens que Quake 2 et Quake 3 sont pas loin non plus. C'est toujours id Software, c'est toujours resté dans un coin de leur tête, ce genre de truc-là. Et voilà, un jeu qui est très rigolo, qui tourne sur le moteur de Quake 3, qui tourne plutôt bien. Mais qui est finalement, oui, très représentatif des FPS de la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire avec de la 3D assez rudimentaire encore. Et des thèmes qui sont. Voilà, occulte, satanique, ce genre de choses-là, horreur. Finalement, on reste un petit peu Half-Life, tout ça. On est quand même toujours un petit peu dans cette mouvance-là. Mais un jeu qui reste très bon. Je sais pas si Fro t'avais joué. Je crois qu'il y a un mode multijoueur, celui-là. Je sais pas si t'avais eu l'occasion de.
Ah, si, c'est comme ça, je l'ai connu.
Frotter. Ah.
Ouais. Comme ça, je l'ai connu dans les salles de jeux en réseau. Et du coup, il y avait Wolfenstein, enfin Return to Castle Wolfenstein. Et c'est comme ça que je l'ai connu, après, je l'ai eu comme tout le monde, après, hein, sur un CD gravé, et puis j'ai pu y jouer chez moi.
Tu l'as tipiaqué comme un gros
sale.
Je l'ai
tipiaqué, ouais.
Mais c'est bon.
Et du coup, on joue déjà Blazkowicz dans celui-là.
Oui, on joue déjà Blazkowicz dans celui-là, mais alors je sais plus, dans l'original, je me demande si on joue pas déjà Blazkowicz.
C'est le Wolfenstein Guy.
Je ne sais plus. C'est peut-être ça. Hein. Le suivant dans la liste, c'est Wolfenstein Enemy Territory. Qui en fait est un jeu multi complètement gratuit, qui est toujours fait par id Software. À l'origine, ça devait être un jeu, et en fait, la partie solo a été annulée, parce que les mecs avaient apparemment pas assez d'idées. Par contre, ils ont gardé la partie multi, donc ça tourne toujours sur le moteur de Quake 3. Il y a toujours des gens qui y jouent aujourd'hui, c'est un mode qui est gratuit, qui est toujours joué, qui est pas inintéressant d'ailleurs. C'est un truc à base de missions, généralement, genre aller planter une bombe, aller prendre le drapeau, aller faire des trucs comme ça. Pareil, normalement, si vous avez un peu joué sur PC au début des années 2000, vous avez forcément joué à un moment dans une LAN à Wolfenstein Enemy Territory, parce que c'est vraiment un truc qui était super populaire, dans le sens où le jeu était gratuit, les serveurs étaient disponibles, n'importe qui pouvait faire tourner son serveur. Du coup, ben voilà, c'est cool, quoi. T'as un jeu gratos qui tourne plutôt bien, puisque ça tourne sur le moteur de Quake 3, c'est-à-dire que c'était quand même déjà bien rincé en 2001-2002, 2003 même d'ailleurs. Enfin voilà, n'importe quelle carte graphique était capable de le faire tourner à 60 FPS sans aucun problème, donc c'est quand même assez cool, quoi. Et nice. Donc c'est effectivement ça, le mode multi-gratuitos. Moi, en fait, le premier Wolfenstein que j'ai connu, c'est celui-là, et c'est ça qui m'a amené sur Return to Castle Wolfenstein, que j'ai connu après pour le mode solo, et en fait, je l'ai pas connu pour le mode multi. Donc voilà, c'est rigolo comme on découvre
des choses. Je regarde une vidéo d'Enemy Territory, ça fait trop de souvenirs, en fait.
En fait, c'est cool, c'est comme Quake 3 ou les trucs comme ça, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas super adapté, je trouve, à un jeu Seconde Guerre mondiale où tu t'attends à avoir un personnage plus lourd, plus lent, alors que là, le truc, il est hyper dynamique.
Ouais, hyper rapide.
C'est assez bizarre, en fait, ça, c'est Quake 3 avec des armes de la Seconde Guerre mondiale, ça fait un peu. C'est un peu curieux. Alors il y a aussi un jeu qui est sorti en 2009 qui va peut-être rien vous dire, parce que je pense que là, globalement, c'est un peu plus compliqué, un jeu qui s'appelle Wolfenstein tout court, qui se veut être une espèce de reboot, et qui est sorti en 2009, et pas de bol, il est édité par Activision.
Ah.
Et il se trouve que ZeniMax rachète id Software 2 semaines avant la sortie du jeu. Donc ZeniMax, qui est la maison mère de Bethesda. Et du coup, le jeu sort, parce qu'en réalité, Activision avait sécurisé le deal, donc il n'y a pas de problème, le jeu sort, mais en fait, il a été retiré des plateformes de téléchargement depuis, et donc il est plus du tout... on peut plus du tout le télécharger légalement, ce jeu-là. Le seul moyen d'arriver à y jouer, c'est d'arriver à récupérer une copie physique, ou d'avoir gardé un PC de 2009 encore en état, qui avait le jeu dessus.
Attends, une copie physique d'un jeu PC ?
Oui, mais en 2009, ça existait encore.
Ouais. Ah, tu veux dire que c'était pas un code de téléchargement Steam ?
C'était pas un code de téléchargement Steam, non, c'était pas une boîte avec un code. Et effectivement, JBC a raison, c'est fait par Raven Studio. Alors Raven Studio, on les connaît bien, c'est eux qu'on fait prêt, si je dis pas de conneries. L'original, pas le remake.
L'original, je crois que oui.
Il me semble.
J'ai une scène en tête.
Je les avais vus pour d'autres choses, Raven Studio. Ils ont fait pas mal de trucs, donc voilà.
Ils ont pas bossé sur Call of, comme ceux qui utilisent Activision.
Possible.
Mais ils ont, ouais, même des... Là, je vois qu'ils ont bossé aussi sur les Star Wars
Jedi
Knight.
Ouais, oui, voilà, c'est Jedi Academy. Merci. Merci, Mecton. Je me disais que ça. Jedi Knight 2, Jedi Academy. Jedi Knight 2, Jedi Knight 3.
Ah, je sais plus après, mais...
Mais ils en ont fait plein.
C'est ça.
Mais ils sont très connus, hein, Raven Studio. C'est vraiment...
Ah, ils ont fait
Excel. Raven Software, oui, d'ailleurs.
Putain.
Voilà, et donc Wolfenstein version 2009, c'est le jeu qui est finalement très Call of Duty sur le principe. C'est-à-dire, il y a une map, il y a des objectifs, il y a de la vie qui régénère. Il y a un système de cover un petit peu basique. C'est pas hyper original. Alors moi, j'ai pas joué, mais j'ai vu effectivement ce que ça donnait. Ça a pas l'air top. Le seul truc rigolo, c'est que comme tu attaques toujours la section paranormale des SS, t'as une espèce de montre avec des pouvoirs paranormaux. C'est-à-dire tu peux augmenter ta vitesse, augmenter ta force, augmenter ta résistance, enfin de ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est malheureusement peut-être un FPS un peu trop générique. C'est-à-dire que tu sens vraiment, ça ressemble à une espèce de mode de Call of Duty, en fait. C'est assez bizarre. Surtout que t'as les armes Seconde Guerre mondiale un peu...
Après, ils ont... Juste pour dire, moi je les ai connus avec Soldier of Fortune.
Raven Studio
Ouais, en 2000.
Raven Software, pardon.
Putain.
Ils ont fait Soldier of Fortune et Quake 4.
Quake 4, c'était pas bien.
Bah et voilà, c'est... Ouais. Mais Soldier of Fortune, c'était cool.
Ah oui, Quake 4, je me rappelle, oui, Raven Software, Quake 4. Ça y est, voilà. ça me frappe aussi. C'était pas terrible.
C'était pas ouf.
Et en fait, Wolfenstein 2009, le souvenir qui en est donné... Alors encore une fois, moi j'y ai pas joué, hein, je connais vraiment pas le truc, mais c'est vrai que du peu que j'en ai vu, lu et regardé, ça a quand même l'air d'être pas terrible. Le jeu, il a pas eu des critiques extraordinaires. Ça a l'air d'être assez générique. En plus, il y a apparemment pas de mode multi. C'est juste une aventure solo, si j'ai bien suivi. Je pourrais dire une bêtise là-dessus, je suis pas sûr.
C'est un FPS random, hein. Il y a pas de...
C'est un peu ça, mais ça fait partie de la vague, tu sais, fin 2000.
Ah,
on avait effectivement
vague.
Plein de FPS un peu random, pas terribles.
Ouais. Bah, sûrement pour surfer sur le succès de Call of 4.
C'est exactement ça. Et avec de la vie qui se régénère, et un système de cover un peu merdique, et des trucs un peu cinématiques avec des scripts partout. Ça ressemble un peu à ça, c'est un peu dommage. Et bon... Voilà, donc c'est pas terrible, et en fait il aura fallu attendre encore quelques années où Machine Games, qui a du mal à se faire éditer, c'est un petit studio suédois si je dis pas de bêtises, qui a énormément de mal à se faire éditer, finit par croiser le chemin de Bethesda, qui les invite chez id Software, hein, tu vois le truc un peu bizarre dans lequel... Voilà, et chez id Software, les mecs se rendent compte que personne ne fait rien avec Wolfenstein, et ils se disent eux qu'ils peuvent faire quelque chose, donc ils proposent un pitch en mode dieselpunk. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc le steampunk, c'est le fait d'aller mettre une esthétique victorienne ou post-victorienne dans un jeu. C'est-à-dire victorienne, c'est l'époque de Jules Verne, de Sherlock Holmes, de
ce genre
de
choses-là.
Et ensuite, justement, d'imaginer que la machine à vapeur n'est pas tombée en désuétude à la fin de l'époque victorienne, et que donc finalement cette époque victorienne, elle a continué jusque dans une époque moderne, et que même ta télévision, elle marche à la vapeur. C'est ça l'idée du steampunk. Le dieselpunk, c'est de reprendre plutôt une esthétique des années 30-40.
Tout marche au diesel.
Tout marche à l'essence, avec des gros moteurs qui font beaucoup de bruit. C'est
comme dans la vie réelle, quoi.
Comme dans la vraie vie. C'est exactement ça. Mais c'est aussi l'esthétique qui était dit art déco communiste. Alors, art déco communiste, ne rigolez pas, si vous avez vu le Batman de Tim Burton, c'est ça, art déco communiste.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est art déco, donc le vrai style art déco, mais avec des statues soviétiques gigantesques, avec des marteaux, des fossiles, des machins. C'est ça le dieselpunk, c'est ce mélange de toutes ces influences.
Et il y a aussi le Giscarpunk, Yoshirio, le Giscarpunk avec l'esthétique et les technos des années 70.
Les gars, si un jour on monte un studio de développement, faut qu'on invente le Giscarpunk.
Est-ce qu'on peut faire le Chirac Punk aussi?
Je pense qu'avec les technologies des années 90, tout est transparent. Bref, bon, on va pas faire ça. Hein. On fait pas ça. On fait pas ça, c'est pas possible. Voilà, donc il propose un pitch à base de ça, c'est-à-dire effectivement une ambiance très diesel punk, un truc hyper irrévérencieux, et en fait de faire un mélange de gameplay entre le Wolfenstein de 2009 qui marchait pas trop, enfin d'essayer de reprendre ce qui marchait bien dans le Wolfenstein de 2009, c'est-à-dire le côté les armes un peu bizarres, les trucs un peu exubérants. Et en même temps, d'adopter ce ton très irrévérencieux, très « je me fous de la gueule de l'extrême droite », très « je me fous de la gueule des nazis », très « on en a rien à foutre », on dit des gros mots toutes les deux phrases, parce que de toute façon, on est dans un jeu 18+, donc on fait ce qu'on veut.
Fuck, c'est cool.
Et ça, c'est cool, avec la voix française de Patrick Poivet. Un petit bijou. Et ça, ça fait plaisir.
Soulis, Tom Cruise, je crois.
C'est exactement ça. Et donc, de reprendre tout ça, tout en mélangeant des éléments de l'ancien, c'est-à-dire des gunfights très très nerveux, dans lesquels, effectivement, il faut mettre de la cover, faut aller bourrer, faut se reprotéger, aller chercher des munitions, aller chercher des armures, tourner autour des mecs, enfin voilà. T'as un mélange un peu subtil qui est pas toujours réussi, il y a des fois où tu sens quand même que le truc, il est un peu foireux. Mais voilà, ça a donné Wolfenstein The New Order, et il y a eu un stand-alone qui est sorti un an ou deux après, je crois, qui s'appelle Wolfenstein The Old Blood.
Ouais, c'est l'année d'après. Ouais.
C'est ça. Donc Wolfenstein The New Order, c'est un vrai gros jeu complet. The Old Blood est sorti comme une espèce de un petit peu comme Young Blood aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire un petit jeu version budget pour réexploiter le moteur et puis exploiter quelques idées que les mecs n'avaient pas eu le temps. À titre personnel, si je dois vous en conseiller un, faites plutôt Old Blood. Je pense qu'il est plus intéressant, il est plus court aussi, ce qui fait que ça permet de plus le focaliser. En fait, l'idée, c'est une espèce de remake de Return to Castle Wolfenstein. C'est-à-dire qu'on reprend Blazkowicz juste avant The New Order, donc avant qu'il retourne en Amérique pour aller essayer de déclencher la révolution contre les nazis aux États-Unis, puisque
Il y a une uchronie, ouais.
C'est une uchronie dans laquelle les États-Unis ont perdu la guerre en 1946 ou 1947. Il y a une bombe atomique qui a été balancée sur New York et sur Washington, si je dis pas de bêtises.
C'est le maître du haut château, quoi.
C'est exactement ça, c'est The Man in the High Castle. Sauf que c'était bien avant.
Oui.
Ce qui est rigolo. Bref, donc il se passe ça, et donc on est en 1900, enfin dans les années 60. Et Blazkowicz et un certain nombre de gens essayent de monter une révolution aux États-Unis. Et donc The Old Blood se passe juste avant ça, juste avant que Blazkowicz retourne aux États-Unis. Et il va dans le Castle Wolfenstein, et c'est pareil, il y a vraiment des morceaux de dialogue complètement pétés dedans, avec de l'humour nazi. Vous essayez de comprendre ce que c'est que de l'humour nazi, mais c'est très compliqué.
C'est un peu fumeux comme humour.
Il y a vraiment des vrais morceaux d'anthologie là-dedans, et t'as le retour du occulte un peu bizarre, t'as le retour d'un petit côté infiltration que t'avais un petit peu dans Return to Castle Wolfenstein, celui de 2001 sur PC. T'avais un petit côté infiltration, donc voilà, c'est une espèce de relecture de Machine Games de ce jeu-là, mais qui t'oblige pas à faire grand-chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te la jouer infiltration si tu veux.
Il y a un vrai...
Ah, Fro, tu es...
On est en train de perdre Fro.
On est en train de te perdre.
Il est de l'autre côté du mur. Ah.
Ça y est.
Ah,
tu es revenu.
Je suis revenu. Je disais, il y a une vraie histoire aussi dans le... Enfin, depuis 2014, en fait, dans les Wolfenstein, où t'as des vrais persos, un peu plus charismatiques,
machin. Une continuité, tout ça.
Ouais, voilà. Donc c'est intéressant, je trouve.
Oui, et puis c'est effectivement la première fois qu'il y a une suite, en fait, à un Wolfenstein. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'était toujours soit des soft reboots, soit finalement on raconte la même histoire un peu différemment. Là, t'as une vraie histoire, t'as une vraie narration. C'est ce qui fait d'ailleurs un petit peu... Enfin, c'est, entre guillemets, un des défauts du jeu le jeu suivant, qui est Wolfenstein 2 de New Colossus, et le prochain qui sera Youngblood, dans lequel effectivement t'as des longues cinématiques et tu sens que le jeu a envie de te raconter une histoire, mais que son gameplay est pas adapté à ça, donc du coup c'est vraiment t'as une grosse séquence de gunfight hyper bourrin, puis après une cinématique de 5 minutes où on t'explique un truc qui sort un peu de nulle part parfois, et puis finalement tu te retrouves à glander dans le sous-marin, à aller voir machin parce que faut bien faire une pause, mais dans une séquence de jeu qui est pas hyper intéressante. Ouais, et derrière, tu te retrouves de nouveau avec du gunfight de bourrin, donc voilà. Tu sens que le jeu veut te raconter une histoire, ce qui est cool. vraiment très 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 cool, parce qu'en plus l'histoire elle est plutôt sympa, les personnages sont effectivement charismatiques. Tu peux faire des petits choix à certains moments dans l'histoire, hein, ce qui est assez rigolo. Ça change vraiment le déroulement soit de l'histoire, soit du gameplay, et puis...
J'ai l'impression que dans Youngblood, qui sort cette année, il y a Arkane Studio qui a bossé dessus aussi.
Oui, tout à fait.
Et du coup, j'espère peut-être un petit peu de gameplay un petit peu à la Dishonored ou à la Prey, quoi. Avec un peu d'infiltration, mais bien pensé, quoi.
T'as déjà ça dans Wolfenstein 2 et dans Wolfenstein The New Order.
Ah.
En fait, tu peux... t'es pas obligé de bourrer comme un sac. C'est ce qui est aussi intéressant, je trouve, avec Wolfenstein 2, c'est-à-dire que quand tu commences à jouer dans le niveau de difficulté par défaut, qui est juste au-dessus de Can I Play Daddy, qui est le truc où il y a Blazkowicz avec une sucette, et, enfin avec une tétine et tout ça, donc c'était qui avait fait hurler certaines personnes. quand tu commences à jouer dans le niveau de difficulté normal, c'est vrai que le plus simple, c'est d'y aller un petit peu guns blazing, en bourrant comme un gros sac, et en fait, ça passe dans la plupart des situations. Dans les derniers niveaux, ça commence à être un peu plus tendu, mais tu passes.
Ouais, c'est fait pour, quoi.
Tu passes, c'est quand même fait pour. Et puis en plus, c'est quand même très très marrant, parce que comme tu peux avoir deux armes différentes dans la main, je veux dire, moi mon combo préféré, c'est mitraillette lourde dans la main gauche, fusil à pompe rotatif automatique dans la main droite, et je veux dire, là, tu bourres comme un sac dans les niveaux, c'est juste hyper jouissif.
On dirait du Baudelaire.
moi je suis un très grand fan de ça, c'est le gameplay hyper nerveux dans lequel tu bourrines comme il faut, et finalement ça ressemble... Alors c'est moins subtil que Doom. C'est ce que je disais dans la critique que j'avais écrit sur le dojo. Alors je sais, quand je dis que Doom est subtil, tout le monde rigole en général. Mais...
Doom, c'est dans le gameplay où c'est.
Doom est hyper subtil en fait.
Ouais, si tu fais n'importe quoi, t'y arrives pas.
Alors que Wolfenstein 2, si tu bourres comme un sac, en fait, ça finit par passer quoi. Faut faire attention en fait à maintenir ton niveau de vie et ton niveau d'armure et faire attention à tes munitions. Enfin voilà, mais t'as pas vraiment ce tel type d'ennemi, vaut mieux que je l'attaque.
Le côté.
On a reperdu Frou. Il est revenu. Peut-être.
C'est bon.
Non, c'est bon, t'es là. Tu disais donc.
Ouais, non, alors. Je disais que c'est. Une coupure. Qui parle ?
C'est toi.
Ah, ok, c'est bon. Ouais, non, je disais que. Je sais plus. Non, que c'est. Comment dire ? Ouais, que c'est moins subtil que Doom, dans le côté où les ennemis, en fait, t'as pas besoin d'apprendre vraiment leur pattern, en fait. Et c'est un peu comme du Call of, où tu bourrines un peu comme un bourrin et ça passe, quoi.
Alors, oui et non, parce que dès que tu commences à monter un peu le niveau de difficulté...
Ah ouais, mais en niveau de difficulté, mais en normal.
En normal, alors en fait, t'as 5 niveaux de difficulté. Et donc le premier, qui est Can I Play Daddy, où c'est vraiment juste... Bon, c'est rigolo, tu bourrines, tu profites de l'histoire, quoi. Mm. C'est vraiment fait pour ça.
Petite balade chez les nazis, quoi.
C'est exactement ça, une petite balade dans New York, infestée, c'est marrant. Et t'es même pas obligé de tirer sur les mecs, d'ailleurs, ils tirent tellement mal que finalement, il y en a plein, tu peux passer à côté. Donc c'est pas très intéressant. Le deuxième niveau de difficulté, tu peux bourrer un peu, mais ça commence à être dur. À partir du troisième, tu as intérêt à être un petit peu plus subtil dans ton approche, c'est-à-dire à faire de l'infiltration dès que tu peux, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on ne te dit pas vraiment dans le jeu, enfin, qui est un petit peu implicite dans le jeu, mais qui est une réalité. Si tu tues les officiers sans qu'ils puissent donner l'alerte, il y a beaucoup moins de soldats qui t'arrivent sur la gueule.
Ah, d'accord, ok. Ah, ils ont vu sur ce truc-là. C'est cool.
Voilà, donc t'as vraiment intérêt, quand t'arrives dans une salle et que tu vois qu'il y a des officiers, généralement les officiers ils tournent toujours le dos au décor, enfin tu peux toujours arriver à leur filer un coup de hache dans le dos, t'as vraiment intérêt à le faire, c'est-à-dire à tuer les 1 ou 2 ou 3 officiers qu'il y a dans une salle ou qu'il y a dans un couloir pour éviter qu'ils appellent des renforts, et dans ces cas-là, même quand les renforts arrivent, même quand il y a beaucoup de monde, t'arrives à gérer à peu près la situation. Le deuxième truc, c'est que dès que les niveaux de difficulté commencent à monter, t'as intérêt à beaucoup plus profiter du cover system, parce qu'il y en a un, même s'il est très limité, c'est-à-dire tu peux te baisser derrière des meubles, des cartons, des trucs comme ça, et t'as vraiment intérêt à te planquer, surtout quand t'as les colosses qui arrivent, c'est-à-dire c'est les très gros soldats nazis qui ont soit des
espèces de robots,
lance-flammes, roquettes, ouais.
Voilà, soit des lance-roquettes, soit des grosses mitraillettes, soit des lasers, tu sais, des armes électriques, ouais. L'espèce de railgun et tout ça. Donc ça, c'est des ennemis qui sont quand même, dès que tu commences à monter la difficulté, qui commencent à être difficiles à abattre de front. Tu peux le faire, mais tu vas forcément perdre de l'armure, tu vas forcément perdre de la vie. Et surtout que le jeu est quand même assez vicieux, parce qu'en général, ils sont pas tout seuls. c'est très souvent qu'ils sont accompagnés par plusieurs autres soldats. Donc là, tu te retrouves comme dans Doom avec à être obligé de faire un peu du crowd control et à te dire bon, faut éliminer les soldats machin. Les soldats qui se planquent aussi, qui commencent à prendre plus de cover quand t'es dans les niveaux de difficulté plus élevés. Donc c'est pas juste ils ont plus de vie, ils sont plus forts, ils visent mieux. C'est ils sont aussi un tout petit peu plus intelligents. Donc voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça n'y paraît au départ.
Ok, c'est cool.
Mais c'est pas aussi subtil que Doom. C'est effectivement, il n'y a pas un pattern spécifique par ennemi où tel ennemi, t'as intérêt à l'abattre par derrière, et ainsi de suite. Maintenant, il y en a quand même parce que les colosses diesel, c'est-à-dire ceux qui ont des lance-flammes, si t'arrives à tirer dans leur réserve d'essence qui est derrière leur dos, bah ils explosent.
Badaboum.
Voilà. Donc mine de rien, tu t'es quand même obligé de gérer ça un tout petit peu mieux. Maintenant, il y a des ennemis clairement. Enfin voilà, les chiens nazis robots géants. C'est normal.
Robot géant. Voilà.
Non, mais c'est exactement ça. C'est le jeu. C'est genre comme Resident Evil 4. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, tu dis mais putain, what the fuck. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc hallucinant. Et c'est vraiment cool d'avoir des trucs de plus en plus hallucinants comme ça. Et donc les chiens robots nazis géants qui ont des lance-flammes dans la bouche. Normal. Qu'il y a même une mission où tu peux monter à dos de chiens nazis robots géants qui a des lance-flammes et griller tous les mecs dans le niveau. Génial! Bah oui. Oui, mais faites ça! ce genre de truc-là qui est génial, c'est des ennemis qui sont hyper difficiles à abattre parce qu'en fait, ils sont pas vraiment de points faibles, donc t'es vraiment obligé juste de bourrer dedans, quoi. C'est là où je trouve que le gameplay a un petit peu ses limites. Mais ça n'empêche pas que voilà, si tu montes un petit peu le niveau de difficulté, tu te rends compte que voilà, faut bien connaître l'emplacement des armes sur la carte, faut bien connaître l'emplacement des ennemis, faut bien connaître leur point de respawn, faut quand même savoir un peu comment les abattre, faut quand même savoir un peu comment réagir, faut pas hésiter à se planquer. Enfin, ça devient un tout petit peu plus subtil. Mais par contre, effectivement, il faut monter un peu le niveau de difficulté pour que ça arrive. Quand tu restes sur un niveau de difficulté assez bas, ben, c'est du bourrinage agréable. Aucun problème là-dessus, mais du bourrinage.
Okay. Voilà.
Donc, et ça, c'est valable pour Wolfenstein The New Order. Alors, The Old Blood est peut-être un petit peu plus subtil parce qu'il faut un petit peu plus, y a un petit peu plus de côté infiltration dedans. T'as vraiment intérêt de temps en temps à faire de l'infiltration.
Et ça se passe à Paris.
Non,
pas le dernier.
Old Blood.
Ah oui,
pas Young Blood. Blood ouais. Et donc, The New Colossus, il y a un truc assez génial, c'est qu'à un moment dans le jeu, à peu près au tiers du jeu, on te demande de choisir un pouvoir permanent. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas comment. J'ai pas envie de vous spoiler une séquence qui est absolument géniale. voilà, c'est juste la folie à quel point le truc est... Enfin voilà, il faut vraiment le voir, c'est incroyable, c'est le jeu, tu te dis, il est de plus en plus what the fuck, et là t'arrives et tu te dis, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire pire, si, ils font pire, et jusqu'au bout, le truc part en couille, il n'y a pas de problème, c'est vraiment complètement assumé, et donc à un moment, tu peux choisir entre, en gros, un truc qui te permet de te glisser dans des endroits beaucoup plus étroits,
vis.
Voilà, merci beaucoup, j'attendais que tu la fasses. Donc tu as un machin qui te permet de comprimer ton corps en fait pour pouvoir t'infiltrer plus, et donc là tu te mets en mode infiltration, c'est-à-dire que tu peux vraiment commencer à tuer des ennemis en étant planqué sous un tank dans lequel tu pourrais pas arriver normalement, tuer le mec, contourner un truc, retuer un autre mec, et ainsi de suite, et donc tu peux faire quasiment tout le jeu comme ça, ce qui est quand même assez génial. T'as une extension force qui te permet en fait de donner des coups d'épaule dans les ennemis pour les tuer, ou de casser des murs, c'est-à-dire passer à travers des murs, ce qui est quand même assez... C'est cool. Et donc c'est l'espèce d'extension bourrin corps à corps, et t'as une extension qui te permet en fait de rallonger tes pieds. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Là, tu te retrouves sur des espèces d'échasses. Et donc comme t'es sur des échasses, et ben quand tu lances des grenades ou des trucs comme ça, bah tu peux les lancer beaucoup plus loin. Et du coup c'est vachement rigolo. Parce que non seulement tu peux atteindre des planques. Tu peux vraiment atteindre des planques qui sont très difficiles d'accès. Les ennemis ont plus de mal à te tirer dessus parce que forcément t'es en hauteur par rapport à eux, c'est beaucoup plus facile de les canarder, enfin voilà, c'est assez rigolo. Et donc tu as trois variantes de gameplay arrivées à peu près au tiers du jeu, pour finir le jeu. Et les trois sont intéressantes à jouer, moi j'ai fait la campagne trois fois, j'ai fait ces trois extensions-là. Et c'est vraiment très 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 rigolo.
Ça te change vraiment la manière de jouer, quoi.
Alors c'est les mêmes niveaux. Mais il y a un niveau qui se passe à la Nouvelle-Orléans, et en fait, tu fais le début du niveau, et à un moment, tu te rends compte que quand t'as le truc pour défoncer les murs, t'as un mur à défoncer, donc tu défonces le mur, puis t'arrives dans un bout du niveau que tu peux explorer que quand t'as fait ça, et en fait, quand t'as le truc pour te compresser, en fait, tu vas dans les égouts, et tu t'atterris à un autre endroit, Et quand tu as les jambes extensibles, ben en fait tu passes par-dessus un mur qui a été dressé à cet endroit-là et t'atterris encore dans un autre endroit. Donc tu fais vraiment, enfin c'est le même niveau, mais tu as vraiment trois chemins différents qui ont été dessinés, alors qui finissent par tous se rejoindre hein, évidemment. Mais voilà, t'es obligé.
C'est une approche différente du même niveau.
C'est exactement ça, et ça t'oblige aussi à jouer le niveau un petit peu différemment. C'est-à-dire que ça, c'est pas seulement les capacités, enfin c'est pas seulement des capacités actives, genre je peux compresser mon corps, je peux défoncer les murs, je peux allonger mes jambes. C'est aussi des capacités passives, c'est-à-dire que quand t'as les épaules, t'es moins sensible aux explosions, elles te projettent plus par terre. Je crois que ton armure se régénère automatiquement. Quand t'as les longues jambes, ta vie se régénère automatiquement je sais plus trop quoi. Et quand t'as le truc de compression, qui est le truc on va dire orienté infiltration, si tu surprends un ennemi, c'est-à-dire que tu fais plus de bruit quand tu cours déjà, ce qui est quand même pas mal. Et si tu surprends un ennemi, il va mettre plus de temps à réagir avant de commencer à te tirer dessus. Donc il ne donnera pas l'alerte tout de suite puisqu'il va pas tirer, donc tu auras le temps éventuellement de l'éliminer avec un silencieux ou un truc comme ça. Là, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît en fait. Mais c'est assez rigolo. Et donc Youngblood qui sort cet été, malheureusement seulement en démat sur Switch, mais qui est quand même fait par Panic Button et qui a quand même l'air d'être cool, va reprendre une esthétique des années 80. Et avec du synthé apparemment bien pété, c'est ce que les mecs ont promis. Ils ont promis des niveaux qui se passeraient donc dans Paris. Alors, dans les catacombes, dans le métro, dans les trucs comme ça, et je vous invite à regarder le trailer, c'est à peu près le niveau de Wolfenstein 2, The New Order ou The Old Blood, c'est le grand n'importe quoi. Ça a vraiment l'air d'être très cool, moi ça me fait très envie, et je trouve ça hyper dommage que le jeu soit pas sur cartouche.
Et la bande-annonce, ils ont bien fait au niveau du choix de la musique. Ils ont pris Carpenter Brut. Donc,
j'avais même pas fait gaffe, effectivement.
C'est un peu bourrinos aussi, donc ça passe hyper bien quoi avec le style de jeu, donc plutôt bien vu.
Mais je pense que alors ça risque d'être comme The Old Blood, ça risque d'être un jeu assez court, genre 4-5 heures de jeu. Mais c'est un jeu qui se joue en coop aussi, c'est-à-dire que tu peux faire toute la campagne en coop puisque c'est les filles de Blazkowicz. Il a des jumelles dans The New Colossus et en fait c'est ces jumelles-là qui essayent de le retrouver 20 ans après, donc en 82 ou 3. Puisque The New Colossus se passe en 1962 ou 3, je crois.
Ouais, c'est
je sais plus exactement. C'est 61 ou 63, voilà. Et ça a l'air d'être nazi des années 80. Ça suffit. Ça suffit. Et ça a vraiment l'air d'être hyper cool. L'esthétique a l'air d'être barrée. Et le fait que le jeu se joue en coop, je pense que ça peut donner des choses un peu intéressantes parce que la grosse tuerie en coop, ça peut vraiment être marrant. Alors je sais pas s'ils vont reprendre cette idée d'avoir effectivement trois approches des niveaux possibles en fonction des extensions que t'as. Si ça se trouve, il y a une des sœurs jumelles qui va avoir des pouvoirs un peu différents d'une autre, ça n'a pas encore été annoncé. Mais voilà. Paris, c'est Wolfenstein, les années 80, des nazis, des gros fusils qui font très mal. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vraiment.
Une cartouche. Un mode Mario et un VR Zelda.
Et un mode facile.
Mais je suis sûr qu'il y aura un mode facile. Canal Play a dit où tu pourras juste bourrer comme un gros sac et ce sera pas trop grave.
Titre.
Voilà. En tout cas, moi je vous recommande, si je dois vous recommander un des deux Wolfenstein fait par Machine Game, The Old Blood est vraiment très bien. Et Wolfenstein 2 The New Colossus est vraiment très 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 bien.
Le partage est vraiment cool.
Là, on rappelle Wolfenstein 2 qui n'est pas en fait le 2, mais le remake, enfin le 2 du reboot. Non, c'est compliqué.
C'est ça. C'est la suite de The New Order, qui était lui-même la suite de The Old Blood, qui est lui-même un reboot complet de la franchise, un hard reboot, vraiment, pour le coup, de Machine Games. Voilà. Et Youngblood est fait aussi par Machine Games, Panic Button pour la version Switch, donc un gage de qualité.
Ouais, il bosse bien.
On sait que ça va être nickel. Et avec un petit coup de main d'Arkane Studio Lyon. Alors, je sais pas si c'est pour le scénario, si c'est pour les personnages, si c'est pour certaines mécaniques, mais
je crois que c'est pour les. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais c'est pour le level design.
De Paris,
architecture, machin. Ouais,
ça va être très très bon.
Arkane Studio Lyon, on rappelle, hein, Dishonored.
Mm-hmm. Ouais, non, mais ça va être. Je pense que ça va être très très bon. Je suis hyper triste qu'il sort pas sur cartouche. Bethesda, si tu nous écoutes, fais une version collector, même à 50 balles, je te l'achète, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Les jeux de Panic Button, tu me les mets sur des cartouches.
Tu sais très bien qu'ils pourraient faire une édition collector sans le jeu avec. Hein.
Non, mais ils vont pas arriver là-dessus. Voilà, stop.
Écoute, il y a une société japonaise qui l'a faite.
Ouais, puis finalement, il est ressorti en physique après, en vrai.
Je parlais de Marvel vs. Capcom Infinite de...
Ah.
L'édition collector où t'avais tout sauf le jeu.
Moi, je parlais de Sonic Mania.
Sonic Mania, je pensais à ça aussi.
Ouais. Ah ouais, merde, je savais pas pour Sonic Mania.
Bah, en fait, Sonic Mania Plus est sorti en physique un an après. Avec tout le jeu sur la cartouche.
Oui, mais c'est un DLC, ça.
Non, c'est tout le jeu. Hein. C'est Sonic Mania
tout
Plus.
Tout le jeu, plus le DLC, mais si plus tu jeu, que plus le DLC, la version des maths, tu pouvais.
Voilà.
Je crois qu'il y a eu une version aussi de Red Dead Redemption 2 où t'avais un truc à 150 balles et finalement pas le jeu dedans.
Bon, en même temps, il y a apparemment The Division, il y a un patch Day One qui fait 45 gigas. Donc,
C'est Fallout 76 où les gens attendent encore le jeu.
Non, ils attendent un sac. C'est le sac,
putain,
le sac en
Bethesda, toile. C'est devenu la catastrophe. Quoi, le...
Et sinon, pour revenir sur le Wolfenstein, il y en a un en VR aussi qui sort cette année.
En VR
Wolfenstein. En VR.
Est-ce qu'il est compatible Nintendo Labo VR?
Non,
il sort sur PC et PS4. Et c'est un petit truc, je crois, ça doit avoir 20 balles. Et puis,
ouais, mais c'est une VR expérience, un peu comme Doom VR qui était pas terrible.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça.
Panic Button, si tu nous écoutes, si t'as envie de faire une version VR de Wolfenstein 2 ou de Doom sur Switch, vas-y, fais-toi plaisir.
Attends, j'achète direct.
Ah, moi, j'achète direct. Tu le vends 20 balles, j'achète direct, gars. Direct. Oh putain, Yoshirio. Fallout 76, ils ont déjà les bugs, il manque plus que le gameplay.
C'est exactement ça.
C'est pas gentil. Bref, allez, on va se quitter là. Cette émission a duré beaucoup trop longtemps. Mais j'avais vraiment envie de faire cette petite rétrospective Wolfenstein. J'étais vraiment hyper saucé par le jeu. Je le suis beaucoup moins maintenant. Je sais qu'il est dispo qu'en démat. Je vais prendre mon mal en patience et espérer que quelqu'un prendra le flambeau et le mettra peut-être sur une cartouche. On sait pas, ça m'étonnerait beaucoup. Mais...
Ça, c'est chaud parce que. Ouais. Bah, l'éditeur, ça va être compliqué.
Je pense que ça n'arrivera pas. Après, je me dis que si on gueule suffisamment, peut-être qu'ils feront un petit effort, Bethesda, et qu'ils mettront pas sur cartouche, mais peut-être qu'ils feront une édition collector limitée ou quelque chose comme ça, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc on va se quitter ici. Merci Fro de nous avoir rejoint en cours d'émission. C'était bien sympathique.
Froline.
Très très bon.
Tu reviens quand tu veux.
Bah oui.
Tu viens plus souvent.
C'est ce que je
dis. Tu viens plus aux soirées.
Je viens plus aux soirées.
On a fait une soirée d'Inde.
C'est mercredi. Mercredi, une fois sur deux, je suis un peu bloqué quoi. Donc.
Bah là maintenant, ça tombe la bonne semaine.
Oui voilà. Normalement c'est ok.
Ah t'as plus d'excuses.
Ouais,
on a calé ça exprès pour que ça tombe les semaines de Nintendo Direct et les semaines où il n'y a pas des 3D aussi. On peut pas tout faire non plus, à un moment on peut pas tout satisfaire. Il y a un mec une fois qui m'a demandé ce que vous pouvez éviter de tomber la semaine de la Ligue des Champions. J'ai dit écoute gars, il y a suffisamment de contraintes comme ça. Voilà. Bon, et bien en tout cas, on vous fait des bisous à tous, on espère que ça vous a plu comme émission. Et on se retrouve dans deux semaines, ta gueule le chat. Putain, c'est pas possible. La gerbée.
Trop de VR.
Ouais.
Je vais essayer de mettre le casque de VR sur le chat.
Oh mon dieu.
Ah, c'est horrible. Oh là, mon dieu. Bon, bref. Allez, à dans deux semaines.
Au Wiedersehen.
Bisous, ciao tout le monde. Au Wiedersehen. Personne chante l'hymne nazi, non, c'est bon? Non, stop. Non, c'était pour déconner.
Oh putain, mais les mecs, quoi.
Je mets mes bottes et j'arrive.
Du coup, tu mets un chant russe alors qu'on a parlé de nazis. Bravo.
Voilà, tout va bien. Bref, à dans deux semaines.
Bisous.
Bye
bye.